Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, la journée de Ligue 1 se poursuit avec les deux derniers matchs encore à jouer. Dans un instant, Lille-Clermont et évidemment ce soir, le match entre Monaco et Marseille, plus exactement entre Marseille et Monaco. Roland Courbis à mes côtés, comme tous les dimanches. Salut Roland.
Salut Christophe et salut à tous.
On reviendra évidemment sur les résultats de cet après-midi avec une nouvelle défaite pour les Girondins de Bordeaux qui s'enfonce au classement. Défaite...
Surtout quand on a un adversaire direct. Pour le maintien, ça c'est sûr que c'est doublement emmerdant ces défaites.
Et puis de l'autre côté, on a vu la victoire de Saint-Etienne. On y reviendra tout à l'heure. Saint-Etienne qui a communié avec son public et qui souffle un petit peu, même si évidemment rien n'est encore fait. Pour l'instant, direction le stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq. Lille-Clermont, c'est le prochain match qui va donc opposer ces deux équipes. Timothée Mémon, lui aussi, il est soulagé, accompagné de Jean Mohamed cet après-midi. Bonjour les garçons.
Bonjour Christophe. Bonjour coach, bonjour à tous, salut, c'est parti à l'instant à Pierre-Mauroy. Effectivement, je suis léger, je suis très très léger cet après-midi, vous allez voir, je vais être de bonne humeur avec ce ballon, ce premier ballon dans les pieds Lillois. On va en profiter justement Jean pour donner la composition des Lillois.
Ah, il était soulagé le team quand j'étais le chercher tout à l'heure avec le 1-0 à 15h, il était tout bien. Alors du côté du LOSC, la compo, Léo Jardim qui était incertain suite à son coup à la cheville, hein, son coup provoqué entre guillemets avec le choc avec Paqueta qui avait fait couler beaucoup d'encre avec ce but refusé à Lyon, est bien titulaire. En défense, on retrouve à gauche Diallo, dans l'axe Botman, Fonte, à droite Celik, au milieu Sheka et André. Et là donc on va voir la position des joueurs, la Bamba à gauche et puis notamment au milieu de terrain donc Sheka avec André et Renato Sanchez à droite, et devant on a Ben Arfa avec Jonathan David.
Et la composition de Clermont avec Oupariñ Djoko dans la cage, une défense Seydou Tondi sur le côté droit, Zedaka sur le côté gauche, Nsimba à la récupération, Johan Gastien et Salis Abdoul Samed sur le côté droit, Lucas Dacunha sur le côté gauche, Rachani en soutien de Greg John Kay qui tient l'attaque. Et bien ce sera Jason Berthomier dans cette position de 9,5 ou de numéro 10, c'est selon. Ballon en tout cas dans les pieds de Renato Sanchez qui a vraisemblablement un positionnement libre. C'est à cela qu'il faut s'attendre dans cette rencontre, dans ce 4-2-3-1 finalement mis en place par Jocelyn Gourvennec. On risque de voir pas mal intervertir Ben Arfa, Bamba et Renato Sanchez, et ça a déjà commencé dès le début de cette rencontre alors que la possession est lilloise.
Ouais, et un peu plus à droite, on va voir comment ça évolue. En tout cas 0-0, 2 minutes de jeu. On rappelle que Lille doit absolument continuer à prendre des points pour aller en Coupe d'Europe, c'est l'objectif du club. Il y a ce match retour contre Chelsea le 16 mars prochain ici même, stade à guichet fermé. La mission sera compliquée avec deux buts à remonter.
Et Ben Arfa, c'est sa première titularisation, non?
Non, c'est la troisième.
Non, contre Lyon, il était titulaire, et contre Paris aussi.
Ah ouais.
Voilà, donc Bourak n'est pas en grande forme, il a toujours un problème au niveau du pubis, il est sur le banc là. Et c'est vrai qu'il n'a pas non plus 40 000 choix, Jocelyn Gourvennec, parce que sincèrement, coach, Timothy Weah, c'est un peu moyen. Liadji, on ne sait pas pourquoi il ne joue pas beaucoup. Attention quand même avec les Lillois qui sont à l'attaque avec Ben Arfa. Et puis aussi Angel Gomez qui est un peu jeune.
Et justement là, c'était Ben Arfa qui était à l'entrée de la surface de réparation, qui aurait pu glisser ce ballon avec un peu plus de spontanéité. Toujours est-il que le ballon reste lillois avec Sheka qui trouve Bamba pour Thiago Diallo qui lève la tête, qui va revenir sur ses pas, retrouver Jonathan Bamba qui s'appuie sur Atem Ben Arfa qui a un petit peu de champ, qui essaye de s'appuyer sur Sheka. Elle est pas bonne cette passe, elle a été touchée par un joueur clermontois. Ils vont pouvoir ressortir, pas pour l'instant, dans la récupération lilloise avec le centre de Renato, la tête de Bamba à l'ouverture du score en faveur du avec ce ballon déposé par Renato Sanchez. Quelle passe décisive, délicieuse, merveilleuse sur la tête de Jonathan Bamba. C'est pas le plus grand, c'est pas celui qui a le meilleur timing aérien, mais quand la passe est aussi belle, il suffit de mettre le front et ça fait but 1-0 en faveur du LOSC. Après quelques secondes de jeu seulement, les Lillois sont devant
avec donc Sanchez sur le côté droit. Paris gagné par Jocelyn Gourvennec, le centre, la tête de Bamba qui n'a pas marqué depuis plus d'un an, ça fait un paquet de temps qu'il n'avait pas marqué l'attaquant lillois. 3 minutes de jeu et Lille qui ouvre le score. Ça faisait longtemps que Lille n'avait pas mis un but aussi rapidement dans un match. Voilà, Lille pour l'instant on verra, c'est le début du match,
le centre est magnifique,
ils ont fait le plus dur, peut-être.
La tête elle est super, juste là où il faut la mettre, c'est-à-dire à côté de là où il y a le centre, mais le centre il est magnifique.
Ah, le centre est absolument splendide. C'est la quatrième passe décisive de la part de Renato Sanchez depuis le début de la saison. C'est un peu en dessous de ce que l'on pourrait espérer de la part d'un tel joueur, mais tout de même ça reste quand même intéressant. Et Jonathan Bamba qui n'avait plus marqué depuis
un an,
47 matchs si je me trompe pas, 46 ou 47 matchs, et bien a enfin marqué un but de la tête. C'est vraiment pas sa spécialité, pourtant et bien le voilà enfin buteur, premier but de la saison donc nécessairement, vous l'avez compris,
à l'ancien Stéphanois
comme
plus.
Par hasard.
C'est fait. Tout est prévu, tout est bien calculé cet après-midi. Voilà, 1-0 pour le LOSC.
Voilà, une ouverture du score très très précoce, hein. Roland qui va soulager un peu les Lillois et qui va être contraint les Clermontois à sortir de leur coquille.
Je dis pas que le plus dur est fait, mais un peu quand même. Ouais. Parce que ouvrir le score dans ce genre de match-là, c'est quand même pas évident. Et cette équipe de Clermont, on l'a vu ces derniers temps, c'est pas facile de la battre. Et là, c'est quand même une très très bonne chose.
1-0 donc pour le LOSC face à Clermont. On écoute évidemment et on a une oreille et un œil attentif à ce qui se passe. On va revenir sur les autres événements sportifs de l'après-midi et puis vous présenter aussi tout ce qui va se passer encore dans la soirée. On va vous parler tout d'abord du premier Grand Prix moto de la saison qui se disputait cet après-midi sur le circuit de Losail au Qatar et qui a vu non pas Fabio Quartararo s'imposer, loin de là, mais un Italien nommé Enea Bastianini sur Ducati remporter cette première course. Paul Lafitte nous a fait vivre la course. Salut Paul.
Salut Chris, salut coach et rebonjour à toutes et à tous. C'est ravi de te retrouver sur les lignes, Christophe, évidemment.
Ah ben bah oui.
Après des semaines un petit peu compliquées au niveau de la technique.
Ouais, t'étais poursuivi par un chat noir.
C'est
ça y est, t'as réussi à t'en débarrasser. C'est pas mal. Alors, le chat noir, en revanche, il est toujours sur la Yamaha de Quartararo. On attendait beaucoup de lui aujourd'hui, même si on savait que ce serait compliqué parce que les essais d'intersaison n'ont pas été réussis. Bah, ça s'est vérifié dès le premier Grand Prix. Il est 9e, c'est pas du tout la place qu'on attendait pour un champion du monde, mais on s'y attendait un peu.
Non, Christophe, ce n'est pas la place qu'attend évidemment le champion du monde en titre, Fabio Quartararo, mais comme tu le précisais, au vu des essais d'intersaison, au vu des qualifications hier, on rappellera que Fabio s'est lancé de la 11e position sur la grille, avec deux positions d'avance sur Juan Zarco, l'autre pilote tricolore. Eh bien, dans ces standards-là, on ne pouvait pas espérer beaucoup mieux qu'un top 10. C'était d'ailleurs les mots hier en conférence de presse du pilote officiel Yamaha, qui a pourtant très bien débuté cette course, puisque en s'élançant 11e, il était 7e à l'issue de la première boucle, mais il n'a fait que glisser au classement pour se faire, Christophe, dépasser dans la dernière ligne droite du dernier tour par Juan Zarco, qui au contraire, lui, qui s'est lancé 13e, s'est retrouvé 20e à l'issue du premier tour et qui n'a cessé de grignoter son retard pour revenir donc en 8e position lors du dernier tour, au nez et à la barbe de Fabio Quartararo. La Ducati, on le sait, sera certainement la machine à battre cette année. La Yamaha est...
S'ils ne se font pas tomber les uns les autres, hein.
Oui, même si on a vu effectivement cet après-midi que deux pilotes Ducati, Pecco Bagnaia, le vice-champion du monde, a perdu l'avant de sa machine au bout de la ligne droite et a emporté Jorge Martin, le pilote Ducati, le coéquipier de Juan Zarco, donc en bout de ligne droite. Martin, auteur de la pole position, donc deux pilotes Ducati qui étaient à terre. Jack Miller, l'autre pilote officiel Ducati, a lui abandonné. Ce n'est pas un excellent résultat pour la formation italienne. En tout cas, tu le précisais, Enea Bastianini, champion du monde de Moto2 en 2020, qui avait terminé sur un podium lors du sacre de Fabio Quartararo la saison dernière, et bien remporte à la surprise générale sa première victoire en MotoGP. Christophe, il avait cependant claqué un deuxième temps hier lors des qualifications, ce qui veut dire que la Ducati du team Gresini était déjà performante en qualification et il l'a prouvé cet après-midi en course qu'il était capable, Christophe, de s'imposer au nez à la barbe des meilleurs, notamment de Marc Marquez ou encore des pilotes Suzuki. Donc c'est un pilote à suivre évidemment pour cette saison de MotoGP.
Paul, est-ce que on peut imaginer que la Yamaha fera des progrès au cours de la saison, ou est-ce que c'est une année galère qui débute pour Quartararo?
Ce sera certainement une année très galère pour le pilote officiel Yamaha. Un manque de grippe, il le disait hier après les essais qualificatifs, un manque de stabilité aussi dans les courbes rapides et un déficit de puissance, ce qui veut dire que la Yamaha risque de souffrir tout au long de cette saison. Alors évidemment, chez Yam, on compte apporter évidemment plusieurs modifications, notamment au niveau du package aérodynamique pour permettre permettre à Fabio eh bien de grignoter un petit peu son retard, mais avec ce déficit de puissance. Et lorsque l'on voit comment les Ducati fonctionnent dès cette première course ici au Qatar à Losail, on voit mal comment le pilote français pourrait sur l'ensemble d'une saison rivaliser donc avec les Bastianini, avec les Pecco Bagnaia ou encore Jack Miller. Ça semble en tout cas, Christophe, la saison sera très longue, hein, 21 courses au total, mais on voit mal comment le pilote français pourrait rivaliser avec ses principaux rivaux.
Bon, eh ben, c'est pas une bonne nouvelle, ça, évidemment, d'autant que voilà, la France était enthousiasmée pour Quartararo la saison dernière, mais s'il fait des 8 ou des 9, je pense que l'engouement va retomber un peu.
Oui, hein, d'accord, mais il paraît que c'est quand même un peu moins important qu'en Formule 1.
Ah ouais, mais bon, quand même, si tu conduis un vélo face à des motos, tu vas pas gagner non plus. Hein,
une trottinette non plus.
Bon, même si on lui met des roues supplémentaires.
Christophe, bon. Juste un petit mot rapidement, le prochain rendez-vous, ce sera le 20 mars en Indonésie. C'est un nouveau circuit, le tracé de Mandalika. 20 mars, ce sera également la reprise de la Formule 1.
Il n'y a pas un tracé en descente?
Non, ça n'existe pas encore. Peut-être un jour.
Non, pas encore, coach. On soumettra l'idée bien au Continental Circus.
Et qui a failli mettre le doublé, mais ça passe à côté. Toujours 1-0 pour le LOSC. 10 minutes de jeu.
Merci, Paul. On va évidemment revenir sur le foot avec Jean et avec Timothée. Lille-Clermont, puisque le score a déjà été ouvert par les Lillois en tout début de match, messieurs.
Ouais, on disait un but de Jonathan Bamba, son premier but depuis le 17 janvier 2021. J'avais une petite interrogation sur le fait que ce soit 46 ou 47 matchs. Ça faisait 46 matchs. C'était le 46e match en tout cas.
Ça faisait plus d'un an.
Au moins, toi, tu t'étais pas mouillé et t'avais bien raison.
Tu casses pas la tête.
En tout cas, 1-0 en faveur de Lille après 10 minutes de jeu.
Ce tir du gauche de Bamba, c'est tout simplement horrible.
17h,
ça le fait rire.
Mais avec deux buts de suite, ça fait beaucoup.
Ouais, coach, quand t'as pas marqué depuis 46 matchs, tu vas peut-être pas mettre un doublé tout de suite.
Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que ça donne.
Ah, il se sent des ailes, il se sent pousser des ailes. 17h15, vous êtes sur RMC. L'intégral foot revient dans un instant.
RMC, intégral foot.
Christophe Cessieux.
17h19, vous êtes sur RMC. Si vous avez loupé le début de Ligue Clermont, vous avez loupé l'ouverture du score. Signé. Pardon ? Qu'est-ce qu'il dit ?
Non, je disais, j'ouvre le micro de Sim.
Oui,
voilà.
Raison, oui.
J'aime bien de le dire à l'antenne parce que ça intéresse tout le monde.
Ah oui. C'est bien. Ouvre le score. Oui. Jean et Timothée, les Lillois, et donc un buteur providentiel.
Jonathan Bamba, effectivement, qui avait plus marqué depuis très longtemps, qui ouvre le score. Il faut le rappeler sur une magnifique passe de Renato Sanchez, absolument splendide, déposée sur la tête de l'ancien Stéphanois. Le ballon est dans les pieds à Lillois avec Jonathan Bamba qui s'appuie sur Zeki Sélik. Zeki Sélik qui retrouve Benjamin André dans l'axe, qui va revenir en retrait vers José Fonte. Il faut dire ce qui est, depuis maintenant 15 minutes de jeu, on a très très peu vu cette équipe de Clermont.
Ah ouais, non, franchement, là, elle remonte le ballon tranquillement, mais bon, il y a eu un petit flottement là avec la défense de Lille et un Cheka qui râlait auprès de l'arbitre et du juge assistant, notamment sur Monsieur Léonard. Et il a un peu délaissé ses partenaires, et c'est le genre de faute d'inattention qui peuvent te coûter une action et un but. Voilà, avertissement sans frais, parce qu'il y a eu une sortie un petit peu compliquée pour Léo Jardim. Le gardien du LOSC, qui est brésilien, rappelons-le, et non pas portugais, comme l'ancien coach de Monaco. Ils ont le ballon, ils attendre maintenant les Lillois. Alors c'est vrai qu'ils ont marqué ce but rapidement, Tim. Du coup, on a l'impression qu'ils vont attendre pour les contrer, essayer d'en mettre un deuxième. Ils vont certainement pas trop se fatiguer, les joueurs du LOSC. Il y a des échéances importantes. Il y a un match contre Saint-Etienne dès vendredi prochain, ici même. Et après, il y aura le mercredi suivant la réception de Chelsea pour le match retour. Donc, alors, on va pas commencer dans la gestion physique. Mais en tout cas, ils ont fait le plus dur, Lille, c'est de marquer.
Rappelez aussi que cette équipe de Clermont est orpheline de son buteur habituel, Mohamed Bayo. Qui est blessé, c'est le meilleur buteur clermontois depuis le début de la saison avec 10 réalisations. On retrouve donc Gretjon Kjaer, c'est un nom qui parlera peut-être à certains, peut-être à toi Jean, puisqu'il a été notamment dans l'équipe B de Lens, mais que l'on a surtout connu sous le maillot de Reims, puis qui est parti faire les beaux jours du Servette de Genève, où il a joué 2 saisons et demie, il a marqué 25 buts tout de même, mais il n'était pas forcément dans les plans en ce début de saison, en tout cas souvent remplaçant. On l'a un petit peu fait tourner au Servette. Résultat, il a signé avec cette équipe de Clermont, et il est là pour remplacer aujourd'hui Mohamed Bayo, mais ça n'est pas tout à fait un attaquant dans pleine confiance que l'on a à la pointe de l'attaque des Clermontois pour cette rencontre. Et ça se sent un petit peu dans ces premiers instants. En tout cas, les Lillois ont du mordant avec ce premier but inscrit, la récupération au-delà de la part des Lillois. Ça revient dans les pieds de Benjamin André qui va se présenter seul. La frappe, la parade absolument magnifique de Djoko,
ou Parim Djoko. C'est un geste de buteur, ça.
qui est bien sorti. Alors effectivement, Benjamin André, c'est pas nécessairement la position dans laquelle il est habitué à se présenter. Il était seul face à Oupariñ Djoko. Il a essayé d'aller chercher à droite du gardien qui s'est bien couché. Corner à suivre.
Mais la relance, hein, franchement catastrophique des Clermontois. On va suivre le corner. C'est parti au premier poteau avec une déviation lilloise, celle de Benjamin André après cette tentative de Ben Arfa sur le corner. Le ballon est toujours lillois avec Renato Sanchez. Ils sont tous dans le camp de Clermont. Renato Sanchez, c'est bien fait. Le ballon dans le dos de la défense, le centre de Benjamin André, mais il n'y a personne au niveau du point de pénalty pour récupérer ce ballon et ça va être dégagé par les joueurs de Pascal Gassien. Début de match très compliqué pour les Clermontois qui sont menés, en rappelons-le, 1-0, 17 minutes.
Oui, des Lillois plutôt, plutôt sympas à regarder. Roland, bon début de match hein, des Dogs.
Oui, absolument. Et puis là, on est en train un petit peu de réfléchir combien ça peut faire de points pour Lille en cas de victoire. Mais on réfléchit aussi avec le bas du classement. Et c'est sûr que cette équipe de Clermont, en plus sans Blaio, ça me paraît être quand même très 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 moyen.
Voilà, Clermont qui pour l'instant a encore une toute petite marge d'avance.
Attention,
sur les équipes relégables. Mais
ouais, Christophe, je sais pas ce qu'en pense coach. Effectivement, ils ont une toute petite marge comme tu dis. Ils ont actuellement 28 points les Clermontois, mais Clermont devra jouer contre le Paris Saint-Germain d'ici la fin de la saison. Et puis derrière, on s'aperçoit que des équipes qu'on pensait mortes comme Saint-Étienne, comme Troyes, ben ça bouge encore, ça bouge encore. Ah, et finalement, il y a que 3 petits points hein, entre Clermont et cette équipe de Saint-Étienne. Lorient, à tes yeux, coach, Lorient, ouais. c'est la plus inquiétante, plus ouais. que Bordeaux
ou Metz. C'est peut-être pas plus, mais au moins autant.
Et allez, les calendriers hein, pour Bordeaux qui va au PSG le prochain match, pas évident non plus. Hein.
Ouais, PSG et Lille hein, pour le prochain match.
Montpellier entre deux et Lille ouais. après. Ouais, et on sait qu'il y a une bonne ambiance entre les présidents, Lillois et. Les Bordelais.
Calendrier compliqué effectivement pour les Bordelais. Attention donc aux Clermontois de ne pas se reposer sur leur laurier et sur des victoires, c'est sûr, qui ont fait du bien face à des gros cylindrés, mais qui ont peut-être aussi parfois été un peu en trompe-l'œil et qui ont peut-être surtout prouvé les défaillances de leurs adversaires plus que leur qualité à eux, Clermontois. Bref, il va falloir la conserver, cette petite avance pour Clermont. Et pour ça, il faudrait essayer de prendre un point aujourd'hui. Pour le moment, ils sont menés 1-0. But de Jonathan Bamba dans les toutes premières minutes de jeu, et ce sont encore et toujours les Lillois à l'attaque.
Avec Diallo qui joue au poste de latéral gauche. Lui, vraiment, c'est étonnant, en tout cas la saison. Il aura joué partout en défense dans l'axe où il est très bon. D'ailleurs, son poste de prédilection à droite, à la place de Celi qui était en délicatesse physiquement. Et puis là, même Bradaric se fait quand même piquer la place par un spécialiste du poste dans l'axe de la défense. Autant dire qu'il est, voilà, il est sur le banc dans ma gauche de Bradaric depuis le départ de Reynildo. Il n'a même pas réussi à récupérer un poste de titulaire. C'est très compliqué pour le Croate. Et là, ballon perdu. Oui. Les Lillois qui voilà, vont voir la défense clermontoise gérer cette balle.
Et les Lillois qui, pour l'instant, gèrent tranquillement leur match. Ils mènent 1-0. Ils ne sont pas du tout inquiétés par Clermont. Donc, après 20 minutes de jeu, 1-0. On vous le rappelle pour les Lillois. On continue d'évoquer le reste de l'actualité sportive de ce dimanche. On va tout de suite sur les routes de Paris-Nice retrouver Arnaud Souk qui nous a fait vivre la première étape de la course au soleil remportée par un Français. Et oui, Christophe Laporte qui s'est imposé. Christophe Laporte, membre de l'équipe de Van Aert et de Roglic, la Lotto Jumbo qui vraiment a été impressionnante aujourd'hui. Mais puisque oui, les trois hommes ont terminé aux trois premières places. Ben oui, les frelons ont piqué
les
très fort aujourd'hui.
Des Pays-Bas, oui, ouais. Ils ont. C'était incroyable ce qu'ils nous ont fait. Alors j'ai dit dans la folie du direct, ça me fait penser. Tu dois t'en souvenir, toi, Christophe, de tes yeux à ce Paris-Roubaix que les Mapei avait écrasé, ouais, oui. Je sais plus en quelle année, c'était en 96, je crois, si ma mémoire est bonne, où trois Mapei étaient arrivés aux trois premières places. Eh bien, ça m'a fait un petit peu penser à ça aujourd'hui. Voilà, ce durcissement de la course dans la dernière difficulté de la journée de la part des Jumbo-Visma. Il y avait eu un gros travail qui avait été fait d'abord de la part de Juan Dennis ou encore de Mike Tenissen, qui étaient les coéquipiers donc de Primoz Roglic, de Wout Van Aert et de Christophe Laporte. Et donc, ils ont réussi à faire exploser tout le monde. Tu l'as vu, et ça s'est soldé par une victoire, la première en World Tour, dans la première division du cyclisme mondial pour le Français Christophe Laporte, qui vient tout juste justement d'intégrer cette équipe Jumbo-Visma. Je te propose propose peut-être de l'écouter, Christophe Laporte, parce que c'était quand même une petite émotion pour lui il y a quelques minutes.
Ouais, c'est incroyable, il y a vraiment une bonne entente dans toute l'équipe. On s'entend tous très bien, on travaille dur, mais on rigole comme voilà, dans beaucoup d'équipes. Et voilà, je suis très heureux qu'il me fasse ce cadeau aujourd'hui. Voilà, c'est quand même une étape de Paris-Nice, c'est un maillot jaune à porter. Donc voilà, c'est vraiment beau de leur part et je leur redresse.
Voilà, il parle de cadeau, Christophe Laporte. Oui, un cadeau, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on pouvait légitimement penser que Primoz Roglic, jouant le classement général, on allait laisser la victoire d'étape à Primoz Roglic pour qu'il prenne en plus de l'avance sur le chronomètre des bonifications supplémentaires. Eh bien non, à 1 km de la ligne, c'est Sir Wout Van Aert lui-même qui est venu souffler, murmurer à l'oreille de Christophe Laporte, c'est pour toi aujourd'hui. Donc vraiment, oui, un beau cadeau, ouais, un cadeau bel esprit bienvenue. D'équipe,
un cadeau
sacré
bienvenue.
Collectif.
On rappelle qu'il vient d'arriver dans la formation de l'armée. Néerlandaise. C'est incroyable quand même que dès que les Français arrivent dans des équipes étrangères, ils montent d'un cran quand même.
Oui, alors bon, je mettrai un petit bémol quand même sur la question de Christophe Laporte, parce que ça faisait quand même un petit moment qu'il courait après cette première victoire en World Tour. Déjà l'an passé, il avait terminé deuxième d'une étape de Paris-Nice. D'ailleurs, si je raconte pas de bêtises, il me semble que c'est Primoz Roglic qui l'avait battu, qui l'avait sauté sur la ligne au sprint ce jour-là, pas loin de chez lui dans le Var. Voilà, ça lui arrivait quand même à plusieurs reprises à Christophe Laporte, y compris sur le Tour de France, de terminer en deuxième position. Là, il me confiait aussi il y a quelques minutes, puisque je l'ai revu après cette interview pour une deuxième interview, je lui ai demandé qu'est-ce qui a changé finalement pour toi, Christophe. Il m'a dit bah c'est bête, mais en fait dans cette équipe tout est au millimètre, en fait tout est au millimètre. On a fait un stage de 3 semaines en montagne, j'avais jamais été préparé avec autant de précision. Et bien voilà, ça fait peut-être la différence aujourd'hui, en tout cas pour Christophe Laporte.
Ouais, magnifique, parce que arriver à s'accrocher à la roue de Van Aert et de Roglic, qui sont vraiment des cadors du cyclisme mondial,
on peut avoir un petit moteur, hein.
Voilà. Super performance de Laporte aujourd'hui. On a d'un côté les Jumbo, les Lotto Jumbo, et de l'autre côté, on l'a vu hier, Pogacar impressionnant dans les Strade Bianche. Voilà, les positions sont déjà là, hein, pour la suite de la saison, et à n'en pas douter, ce Paris-Nice sera remporté par un des coureurs de la formation Lotto, à savoir lequel.
Oh, attention.
Ouais, voilà, évidemment.
Attention. Il peut s'en passer des choses.
Ouais. Hein. Qui y a d'autres? Oui, c'est vrai.
L'année dernière, voilà, et souviens-toi justement à quel point les suiveurs, enfin en tout cas une grande partie des suiveurs lui étaient tombés dessus quand il avait privé au col de la Colmiane Gino Madère de la victoire. On lui avait dit ouais, mais il laisse aucune miette aux autres. Et ben résultat, le lendemain il avait chuté à 2 ou 3 reprises, il avait perdu Paris-Nice comme ça sur chute. Donc bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même du beau monde. Il y a Maximilian Schermann, le double tenant du titre, qui est là. Il y a Guillaume Martin ou encore David Gaudu côté français. On a Brandon McNulty également pour le team UAE, on a Ben O'Connor pour le team AG2R, et puis on a Nairo Quintana quand même, le Colombien, qui fait un super début de saison, sans oublier les frères Yates, un chez Ineos, Adam, l'autre chez Bike Exchange, Simon Philippe Yates. Donc voilà, ça fait quand même du beau monde pour se battre pour le classement général. Et puis je vous ai pas cité Wout Van Aert pour la lutte finale, il sera pas loin de la vérité à mon avis.
Oui, de toute manière on sait qu'il est capable de remporter des courses sur tous les terrains. Très bien, merci beaucoup monsieur Souk. Demain donc deuxième étape, on continue la route vers le sud.
Fargis Orléans.
Voilà. Le contre-la-montre, il est programmé quand?
Il est programmé mercredi.
Très bien.
Voilà. Au pays de Julien Alaphilippe, qui n'est pas là, mais en tout cas, ça sera.
Et oui, il sera sur Tirreno, hein, Julien.
Absolument. Et Saline à partir de demain sur Tirreno, en dépit de sa chute d'hier sur les Strade Bianche. Voilà. Vous avez soleil vu comment incroyable. Il a fait le chat, comment il a fait son soleil, mais il a réussi à faire le chat pour retomber et pour éviter de retomber sur la tête. Il va bien, Julien Alaphilippe, je vous rassure.
Eh bien, tant mieux. Merci Arnaud. Un Français en jaune, donc, sur les routes de Paris-Nice. Christophe Laporte, vainqueur aujourd'hui, devant ses équipiers Van Aert et Roglic. 17h30, le temps, le score. À Pierre Mauroy entre Lille et Clermont. Timothée et Jean.
25 minutes de jeu, 1-0, le buteur Bamba à la troisième.
Très bien. Et puis sachez qu'il y a aussi un petit match en Angleterre. Manchester City face à Manchester United, 0-0.
RMC, Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
Et nous vivons la première mi-temps de ce match entre Lille et Clermont, l'avant-dernière rencontre de cette journée de championnat qui se terminera ce soir à 20h45 par ce match entre Marseille et Monaco dont on vous parlera tout à l'heure. Coach, ça fait à peu près une demi-heure de jeu. Pour l'instant, la domination est flagrante. Domination lilloise qui mène en plus au score.
Pas facile pour Clermont d'égaliser. Je pense que même si un match de football réserve des surprises, si Lille marque le deuxième but, ben, le match pour moi sera terminé pratiquement.
Et peut-être sur corner, le deuxième pour le LOSC avec une tête. Oh, il était seul, Ben Arfa. Non, c'était André. Benjamin André qui se procure deux occasions en l'espace de un petit quart d'heure. Tout à l'heure, c'était un face-à-face raté avec une frappe non cadrée. Et là, bah, c'est une tête qui ne fait pas mouche pour le milieu de terrain lillois. Comme l'a dit coach team, il n'y a qu'une équipe sur le terrain, c'est Lille, on est à la demi-heure de jeu et 1-0. But, on rappelle, de Bamba la troisième.
29e, effectivement, et ce sont les Lillois qui sont devant 1-0. Attention tout de même à Lille de ne pas surdominer cette première période. On sait que parfois, et coach le sait, les matchs ressemblent à ça. Il y a une mi-temps pour chaque camp et il serait peut-être bon pour les Lillois de faire le break, de prendre l'avantage. Absolument. Un petit peu plus tôt, le plus tôt possible en tout cas, avec attention. Là, une faute de Gretjon Kay qui vient de mettre au sol Benjamin André qui a du mal à reprendre son souffle. Je crois qu'il est tombé sur l'épaule, ouais. Je sais pas si c'est la respiration qui est coupée ou si c'est l'épaule qui a tourné. Ça peut arriver dans ce genre de situation parce que le bras est en dessous. Ouais, ouais. Ça peut faire mal au bras ou à la clavicule. Mais il est costaud. Benjamin André, il va se relever, aidé par José Fonte, son capitaine. Le coup de sifflet en faveur donc des Lillois. Une demi-heure de jeu et ce coup de pied arrêté en faveur des Dogs.
Ouais, pour l'instant, ça se tourne bien du côté lillois. Ambiance sympa du côté du Stade Pierre-Mauroy avec un soleil, toit ouvert. Pelouse qui a été changée en janvier, ben qui se désagrège quand même malheureusement. Hein, elle n'est pas exceptionnelle. Il veut pas trop en parler, Jocelyn Gourvennec, parce qu'il dit voilà, je veux pas faire le calimero voilà de parler de cette pelouse pour expliquer.
Donc elle a été changée en janvier, elle est déjà pourrie là.
Ah mais c'est fou. C'est dingue. Changé en se disant bon ben on va faire bonne figure en Ligue des Champions avec le match de Chelsea. Franchement, ouais non c'est d'une tristesse. Hein. On rappelle que c'est un stade particulier qui la moitié de la pelouse. Hein, tu connais Christophe. On a vécu des Coupes Davis, des Euro de basket, du handball et la moyenne moitié. Il n'y a pas assez de terre en fait.
Il y a pas de la terre battue justement, je sais pas. De...
Ouais. Ouais, attention à cette mauvaise relance de la part des Clermontois. Ça revient dans les pieds de Renato qui trouve Sheka dans la surface de réparation, mis au sol. Oh, monsieur l'arbitre a estimé que le ballon avait été gagné avant. Pourtant, il y avait peut-être bien accrochage dans cette surface de réparation. Gretjon Kay qui va mettre ce ballon sur le côté droit avec cette balle pour les Clermontois qui vont essayer de repartir, d'aller de l'avant avec cette balle côté droit pour Lucas Dacunha. Lucas Dacunha qui est repassé par l'axe avec Samed qui va chercher sur le côté droit. Mais qu'est-ce que ça manque d'inventivité, qu'est-ce que ça manque de spontanéité dans cette équipe clermontoise, et ce depuis le début de la rencontre. 31 minutes de jeu, toujours ce score d'un à 0 en faveur du LOSC face à Clermont.
Et sachez que Manchester City, après 5 minutes de jeu, mène déjà un but à 0 face à son voisin de United, but marqué par Kevin De Bruyne il y a quelques instants. 1-0, pardon, donc pour les Citizens.
Reste avec nous, Christophe, reste avec nous. On va prendre le relais. Tu prends un coup d'eau. Ouais, allez, il y aura un coup franc.
C'est un tigre.
Il y aura un coup franc en faveur des Clermontois sur le côté droit. Grosse contestation de la part des Lillois qui ne sont pas d'accord. Et c'est surtout Sheka qui vient réclamer une faute au préalable dans la surface de réparation.
Ouais, il touche le ballon avant quand même.
En fait, dans un premier temps, le Clermontois le dépossède du ballon. Et dans un second temps, il l'accroche, c'est vrai.
Bon, compliqué à juger, je crois.
Compliqué. Moi, je pense que j'aurais pas sifflé, mais je suis pas un bon arbitre en même temps, donc ça, le problème, c'est pour ça que je suis en tribune. Ballon sur le côté droit avec ce coup franc en faveur des Clermontois. Un corner très ouvert pour l'équipe auvergnate avec cette balle à hauteur des 16,50 m. Il y a du monde dans cette surface de réparation. Tous les Lillois sont redescendus. Le public qui a répondu en non, hein, plus de 35 000 spectateurs aujourd'hui au stade Pierre-Mauroy, est en train de scander un aux armes. Et donc, le coup de pied arrêté à venir pour les joueurs du Clermont Foot Auvergne.
Avec Berthomier a priori pour le tirer avec son pied gauche, ça sera rentrant. Il y a danger pour lui parce qu'il n'y a que ce coup de pied arrêté que ça peut arriver. C'était peut-être cadré. Belle parade de Léo Jardim qui concède le corner, le premier corner pour les Clermontois. On va voir si à l'image c'était cadré.
Tiré, hein.
Mais en tout cas c'est bien tiré, c'est bien vu.
En tout cas il a essayé de tromper Léo Jardim. Il a été cadré avec ce ballon rentrant. On pouvait s'imaginer qu'il allait chercher une tête de l'un de ses partenaires. C'était parfaitement enroulé au premier poteau. Le corner qui suit, ballon mis en retrait. Le ballon une nouvelle fois à la surface de réparation. La tentative acrobatique, plus ou moins acrobatique, de la part des Clermontois et de Seydou. Finalement, ça va sortir en touche 1-0 en faveur de Lille après 33 minutes de jeu. Et le but, il a été inscrit à la troisième par Bamba.
Très bien, messieurs, on va aller faire un petit tour au hand avec un match international entre la France et la Croatie. Ça se passe à Toulouse. Les championnes olympiques qui ont battu les Croates, c'était jeudi 21-19. Et donc, c'est le match retour. Salut Morgane Maury.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Un match retour, oui, un match de poule, de qualification pour l'Euro 2022. Les Bleus sont en tête de leur poule. 3 matchs, 3 victoires. Et si elles emportent aujourd'hui contre les Croates ou si elles font un match nul, elles seront qualifiées pour le rendez-vous continental à l'automne. 6 minutes à Toulouse, 2 buts pour la France, mais 3 pour la Croatie. Les Croates en infériorité numérique, mais qui sont devant au tableau d'affichage. 3-2, 6 minutes en première période.
On a l'impression qu'elles n'arrêtent jamais les compétitions internationales avec le hand, c'est incroyable.
Jamais. C'est une année particulière, 2021, avec ces Jeux Olympiques qui sont arrivés un an après. Le rendez-vous de la Golden League, c'est le rendez-vous avec 3 autres grosses nations au cœur de l'automne, et à la fin de l'automne, début de l'hiver, la compétition internationale, un euro ou un championnat du monde, et elles sont engagées maintenant dans cette phase de qualification pour l'euro qui continuera le mois prochain.
Merci Morgane. Donc pour l'instant, c'est bien parti pour l'équipe de France. 17h39, les 10 dernières minutes à vivre de cette première mi-temps entre Lille et Clermont. On va quand même rappeler les résultats de la journée de Ligue 1, un match qui se déroulait cet après-midi avec des rencontres très importantes, notamment en vue du maintien, Roland. Et on va signaler donc la victoire de Saint-Etienne qui s'est imposé 1-0 face à Metz. On y reviendra tout à l'heure avec Edouard G, avec une communion incroyable avec le public de Geoffroy Guichard, match très important et victoire stéphanoise. Défaite également très importante et pour les Girondins de Bordeaux qui se sont inclinés 2-0 sur leur pelouse face à 3, Roland. Bordeaux qui va de mal en piste, c'est incroyable de perdre comme ça à la maison, en plus à 11 contre 10 Troyens.
Ah bah oui, ça c'est sûr que c'est inquiétant, d'autant plus que bon, on avait un gros problème en ce qui concerne la solidité défensive. Ça allait un petit peu mieux sur les deux derniers matchs. Et là, maintenant, il ne marque plus un but, alors qu'il marquait à tous les matchs. C'est cet équilibre pour le trouver. J'ai l'impression qu'il faut être un funambule.
Bordeaux, lanterne rouge de ce championnat avec 22 points, soit le même nombre de points que Metz battu par Saint-Etienne. Les autres résultats du jour, la victoire de Nantes hein, qui continue sur sa lancée, qualifié, on vous le rappelle, cette semaine pour la finale de la Coupe de France. Il s'impose 2-0 face à Montpellier. Match nul un partout entre Reims et Strasbourg. Et puis Rennes, là aussi, continue, poursuit son petit bonhomme de chemin. Les Rennais qui se sont imposés 2-0 face à Angers. Et au classement, les Rennais sont là.
Et bien Angers là, qui 6 défaites consécutives.
Ah ouais, il y a du rouge, beaucoup de rouge quand on regarde la position d'Angers qui est 14e avec 29 points, mais qui effectivement dégringole et qui n'est pas dans une période très faste. Voilà donc pour les matchs du jour. On vous rappelle qu'il y aura également une dernière rencontre tout à l'heure entre Marseille et Monaco. Allez, moins de 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Lille qui mène 1-0 face à Clermont.
36e effectivement, 1-0 grâce à Jonathan Bamba, la 3e minute de jeu. Alors j'ai refait le compte, hein, je suis désolé, je tourne un petit peu en rond, mais j'ai refait le compte. En fait, je vous avais mis le nombre de matchs hors taxe TCC, toute compétition confondue, ça faisait 49 matchs qu'il n'avait pas marqué.
TCC, c'est pas mal,
voilà,
ça.
Toute compétition confondue, voilà, 49 matchs. Enfin, buteur Jonathan Bamba, le ballon est dans les pieds.
Ça fait un an et deux mois.
Toi, t'avais toujours la bonne date, hein. C'est bon, c'était le 17 janvier 2020. Un ballon dans les pieds à Clermontois. Des Clermontois, allez, qu'on voit un tout petit peu plus depuis une dizaine de minutes.
Ouais, avec des coups francs notamment, hein, plusieurs, et un corner sur le côté droit. Ça passe toujours à droite. Hein. Côté gauche, c'est un peu désert pour les joueurs de Pascal Gassien. Mais attention, la contrainte peut-être des Lillois avec un ballon donné pour Renato Sanchez. C'est bien fait de la part du joueur David qui lui rend la politesse. C'est difficile pour Bamba avec la récupération de balle de la part de Nsimba, mais il s'en sort bien. C'est bien, une belle protection de balle par rapport à Bamba. Et ça donne un peu de rythme à cette partie parce qu'on va d'un camp à l'autre, le team. Ça y est, on se réveille un peu dans les dernières minutes de la première mi-temps. On aurait préféré avant, mais c'est déjà mieux que rien.
Sacré point de vitesse de la part de Vital Nsimba qui a résisté à l'accélération de Jonathan Bamba et qui venait, lui, d'une trajectoire diagonale pour venir de son flanc gauche de la défense pour venir défendre dans l'axe. Voilà, bon retour de la part de Vital Nsimba. Important ce retour. Ballon dans les pieds lillois avec cette balle dans l'axe pour Atem Ben Arfa. Jonathan Bamba dans une position très axiale. On ne cesse de permuter sur le front de l'attaque lilloise avec cette balle pour Sheka. Sheka, le bon contrôle, magnifique, quel contrôle sublime de la part de Sheka qui a été mis au sol dans la foulée. Monsieur l'arbitre ne l'a pas vu, il n'a pas fini de décolérer. Sheka déjà qui lui en voulait de ne pas avoir signalé ce pénalty. Il est toujours au sol et les Clermontois se projettent à l'attaque.
Ouais, bah, sur ça, alors que Sheka est toujours au sol, le ballon côté droit pour les Clermontois, ballon en retrait avec peut-être Dacunia, le ballon qui est contré, la frappe contrée par un Lillois, alors que Sheka est toujours au sol et que peut-être l'arbitre va siffler. Voilà, c'est fait, on va voir ce qui s'est passé parce que on l'a vu tomber. Est-ce qu'il s'est fait mal tout seul ou a-t-il été percuté par un Clermontois? On n'a pas trop vu.
J'ai l'impression que dans son dribble, il a été arrêté par un Clermontois, Jocelyn Gourvennec, ivre de colère de voir que le jeu a continué alors que son joueur était au sol. Sheka, lui, en tout cas, semble souffrir. On le voit sur sa passe, il appelle le 1-2.
Et un petit coup de pied.
Et un petit coup de pied. Est-ce que ça lui a retenu la cheville? Est-ce que ça a créé une torsion?
Il s'est emmêlé les pinceaux.
Ouais, je suis pas sûr que ce soit volontaire du Clermontois.
Non. Ça l'a déséquilibré, et s'est emmêlé les pinceaux.
Après, j'ai peur, coach.
Le seul truc qu'il peut avoir, c'est s'être tordu quelque chose ou une cheville ou un genou, mais je vois pas autre chose.
J'ai peur que dans son geste, en fait, le pied du Clermontois lui ait fixé la cheville au sol et qu'il était un peu possible. En surextension et que la cheville ait un petit peu souffert sur ce genre de moment. Bah, il fait pas très chaud, il fait très beau.
Si c'est ça, c'est emmerdant.
Et Onana qui s'échauffe, qui a quitté le banc. Alors, carton jaune pour Gourvennec qui n'est pas d'accord avec monsieur Léonard. Donc, c'est assez rare de voir d'ailleurs s'énerver comme ça. Jocelyn Gourvennec qui est assez calme généralement parce que. Rappelez-vous, lors du dernier match ici, c'était un peu chaud entre Lille et Metz. Hein, rappelez-vous, il y avait Frédéric Antonetti côté Messin, avec Olivier Létang et Sylvain Armand, mais Jocelyn Gourvennec était resté tranquille. Là, c'est lui qui s'énerve, c'est pour ça que je veux dire que c'est assez rare.
Ouais. Mais bon, il n'est pas BTBG aussi. Antonetti, alors. on l'embrasse d'ailleurs, Fred Antonetti. Ça faisait mal au cœur de le voir en tribune à Geoffroy Guichard dans un stade qui a les yeux de l'amour pour l'entraîneur corse. Quand on sait que sa carrière en Ligue 1 pourrait potentiellement s'arrêter à la fin de cette saison, il l'a en tout cas évoqué. On n'a pas envie de le voir finir comme ça dans les tribunes et de ne pas le voir sur sa zone technique, là où il nous a tellement donné à manger à nous médias. Faut dire ce qui est. Ballon qui va être rendu. Sheka a pu se relever. Il a effectivement une petite douleur à la cheville. Il devrait pouvoir tenir son rang. D'ailleurs, il me semble que Onana est revenu sur le banc. Il va pouvoir revenir Sheka sur la pelouse et le ballon sera donc rendu au Lillois qui était en possession de la balle. 40 minutes de jeu, 41 même, 1-0 en faveur de Lille, le but de Bamba à la 3ème et on aura des arrêts de jeu du coup.
Ouais, ça c'est sûr, on aura au moins 3-4 minutes de temps additionnel avec Sheka qui va revenir finalement, hein. Il était sorti là pour on a revu une petite image où on voit que le Clermontois lui marche sur le pied. Tant mieux pour lui, ça va mieux. Il n'y a pas eu de carton d'ailleurs sur le geste du Clermontois parce que je pense sincèrement que c'est involontaire. Le ballon qui circule côté lillois sur la droite avec Zeki Sélik pour Renato Sanchez.
Allez, qui peut s'appuyer sur Ben Arfa. Pour l'instant, on le voit pas beaucoup, Atem Ben Arfa. Il est pas, c'est pas le joueur lillois le plus en vue, pas nécessairement très en jambes.
On sent qu'il y a un petit truc qui peut être déclenché, mais il l'a pas encore fait.
Ouais, ça fait à peu près une carrière que ça dure. Ballon dans les pieds de Sheka. Je suis un peu dur. Ballon pour Sven
la saison niçoise, allez, qui était magnifique il y a 4-5 ans.
Sven Botman avec Thiago Diallo sur le côté droit avec Jonathan Bamba. Jonathan Bamba qui va revenir vers Thiago Diallo. Attention, le pressing clermontois fonctionne plutôt bien et est en train de gêner les joueurs lillois. Ce ballon dégagé par Thiago Diallo, ce sera une sortie en 6 mètres. 42 minutes, coach, ce score d'1-0 et même si Clermont est un peu mieux dans ce dernier quart d'heure, on n'a pas l'impression qu'ils sont quand même tout à fait à la hauteur pour revenir dans ce match.
Alors je les vois pas dangereux du tout.
Non, ce qui est en plus en revanche pour Lille, ce qui est un peu embêtant, c'est que ils arrivent de cette saison rarement à se mettre à l'abri, avoir un petit matelas de but, deux buts d'avance, c'est quand même assez rare. Et comme le disait Tim tout à l'heure, ils sont pas à l'abri. Hein. T'es pas à l'abri de te faire avoir sur un coup de pied arrêté, un penalty. Et c'est ça. Et Lille, c'est ça, c'est un peu le résumé de cette saison. Jamais très loin, mais ils y sont jamais. C'est-à-dire que dans le top 5, ils arrivent pas là. Actuellement, ils sont 6e ex aequo avec Nantes. c'est plutôt intéressant. Hein. Heureusement pour Lille d'ailleurs que tous les cadors galèrent en dehors du PSG, mais Lille est à seulement pour l'instant que 4 points de Rennes qui est 4ème, avec une victoire pour le moment.
Et même 2 points de Strasbourg, première équipe européenne, en tout cas avec l'accessite à l'Europa Conference League qui serait confiée à cette 5ème place. C'est intéressant pour cette formation lilloise qui effectivement bénéficie de quelques équipes qui trébuchent, balbutient un petit peu leur football, à l'image de l'Olympique Lyonnais, de l'AS Monaco ou même de Lens, qui n'était pas programmé pour ça en début de saison, mais que l'on avait vu nettement plus haut dans cette saison. Il va rester une minute à jouer, Christophe, et pour l'instant, eh bien, Lille mène toujours 1-0.
Attention quand même au retour de Lyon qui a été impressionnant, hein, Roland, vendredi soir. Les Lyonnais qui sont à un point derrière Lille et derrière Nantes et qui ambitionnent évidemment de monter sur le podium. C'est vrai qu'il y a une grosse densité d'équipes qui sont susceptibles de monter sur ce podium, mais voilà, elles n'ont pas des progressions linéaires, toutes ces équipes.
Ah, puis bon, il y a pas de problème là. Il y a que la solution c'est de faire un parcours extraordinaire. Je crois qu'il reste 11 matchs pour les Lyonnais. Il faut qu'ils en gagnent 9, un nul et une défaite, donc c'est pas impossible, mais c'est compliqué.
Et un peu pareil donc pour les Lillois qui mènent toujours un but à zéro. 44e, il y aura sans doute du temps additionnel, hein, après la blessure. Il y aura 3-4 minutes. Sachez que Manchester City mène toujours un but à zéro face à United après 19 minutes de jeu. L'ouverture du score signé Kevin De Bruyne dès les 5 premières minutes de cette rencontre. Un petit tour au hand avec Morgan Mori. France-Croatie pour la qualif de l'Euro, de le prochain Euro.
Les joueurs coachés par Olivier Crumbles ont créé un petit écart, Christophe, 8-5 pour les Françaises à la moitié de cette première période. Un temps mort demandé par les Croates. 8-5 pour les Bleus dans cette première période. 15 minutes de jeu à Toulouse.
Allez, retour à...
Une minute de temps additionnel. C'est petite pas bien blague, payé, hein. Petite blagounette de la part du quatrième arbitre, hein, parce que franchement, il y avait largement plus. En tout cas, le score ne change pas, mais ça s'est un petit peu terni au niveau du jeu. Hein, on s'ennuie un tout petit peu quand même dans cette fin première mi-temps.
Attention avec les Clermontois, la surface de réparation. Berthomier qui peut écarter vers Dacunia sur le côté droit. Ce ballon qui sera finalement récupéré par Zedaka, qui a essayé de contourner la défense lilloise et qui va commettre la faute. Le ballon sera donc rendu aux Lillois. On y rentrait dans 7 minutes, donc dans cette unique minute de temps additionnel. On s'attendait un petit peu plus. Il va rester 40 secondes à jouer et les Lillois vont les grappiller ces quelques secondes pour rentrer au vestiaire avec cet avantage d'un but, un but inscrit par Jonathan Bamba très tôt dans cette rencontre sur une passe décisive absolument somptueuse de Renato Sanchez. Le dégagement pour Léo Jardim. Léo Jardim qui regarde au loin. Il y a Benjamin André qui réclame ce ballon. Le long ballon justement à destination du milieu de terrain lillois. Il va prendre ce ballon de la tête, peut-être pour Jonathan David dans un second temps. La défense clermontoise qui va écarter le danger et un ballon qui va revenir dans l'axe vers Gastien. La récupération de Ben Arfa, ça profite à Jonathan David. Ballon sur le côté droit pour Renato. La tentative de frappe de Renato et le retour important et même décisif de la part d'Alidou Seydou, l'ivoirien. C'est la fin de cette première période. 1-0 en faveur de Lille grâce à Jonathan Bamba.
Très bien, voilà, 1-0, ça c'est fait. 45 minutes encore Roland, et puis ce sera dans la poche pour les Lyons. On s'est pas vraiment régalé, il y a eu un bon premier quart d'heure, mais après
je reste toujours sur l'idée qu'on a tous, et il faut que Lille fasse le break impérativement, parce que même si c'est contre une équipe de clairement moyenne, un but, ça peut arriver.
Des magnifiques égalisations à l'instant de Manchester United avec une magnifique frappe qui vient se loger dans le but du gardien de City. Un partout après 21 minutes dans ce derby mancunien. Voilà pour le résultat en cours. À tout de suite sur RMC, on revient dans un instant.
RMC Intégral Foot.
RMC Intégral Foot. 17h53 sur RMC, c'est la pause à Pierre Mauroy, donc qui voit pour l'instant Lille mener au score à la mi-temps, 1-0. But inscrit en tout début de match, Roland, pour les Lillois, donc qui ont fait le plus dur, même si évidemment ils sont toujours à la merci des Clermontois. Mais enfin, on sent pas les Clermontois vraiment en position d'inscrire un but. Hein.
Non, il leur manque Blaio en plus, mais même sans Blaio, j'ai déjà vu cette équipe meilleure, jouer mieux, le ballon circulant mieux. Là, je vois vraiment une équipe qui est tout simplement à son classement.
et son classement n'est pas terrible pour les Clermontois. Ils sont combien? Ils sont 15e avec 28 points pour l'instant, et on espère évidemment pour eux une renaissance en deuxième mi-temps. Que va-t-il se passer dans cette deuxième mi-temps et sur quoi faut-il parier? Eh bien, on en parle tout de suite.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec le roi des paris, Yoann Guy. Salut Yoann.
Salut messieurs, salut à tous.
Donc qu'est-ce que tu as à nous proposer pour nous sortir de notre sieste?
Bon, c'est plutôt déséquilibré là. 1-17, le succès de Lille. 5-20, le match nul. 17, maintenant la victoire clermontoise. Alors je sais pas si je peux vous sortir du lit messieurs, ça va être compliqué. Je ne peux pas faire grand-chose là-dessus, mais je vais persister et signer sur un but de Jonathan David. Ça peut te réveiller peut-être la fin de la
saison
de David.
Ouais, non, je préfère un doublé de Bamba, moi. C'est bien 3-4. Ça, non? Le doublé de Bamba, il a combien?
Alors, David, c'est 3,40 en prochain buteur, 5,20. Et Bamba, c'est juste prochain buteur, c'est coté à 8.
Ah, c'est pas mal ça, Roland. Belle.
Pas mal. Moi, hein? Deux tickets, le 2-0 et le 3-0.
Le 2-0 est à 3,60, le 3-0, 6,75.
Merci, Johan.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Alors, on avait déjà un Timothée Mémon aux anges tout à l'heure. On en a un autre de vert qui est rouge de joie. Ou je sais pas, c'est quoi la couleur de la joie? Je sais plus. En tout cas, on va aller retrouver Edouard G. Il va nous dire de quelle couleur il est. Après la victoire de Saint-Etienne cet après-midi. Saint-Etienne qui s'est imposé dans un match, comment on dit, Roland? Un match à 6 points, c'est ça?
Oui.
Voilà, match à 6 points qui l'opposait donc à Metz et qui a donc vu les Stéphanois s'imposer.
Confrontation directe.
Il y avait deux matchs, hein, deux matchs de la peur, l'un entre Saint-Etienne et Metz, l'autre entre Troyes et Bordeaux. Et les deux vainqueurs, c'est
Saint-Etienne, je crois qu'ils sont sur 4 victoires, un nul et une défaite. Et la défaite, c'est contre, je dirais pas Paris Saint-Germain, contre Mbappé.
Exactement. Ouais, ben ils sont là et bien là les Stéphanois qui en plus ont pu communier avec leur public, leurs nombreux supporters. Il y avait combien de spectateurs? Salut Edouard cet après-midi à Geoffroy Guichard.
Salut Christophe, salut Roland, bonjour, salut à tous. Tu fais fi Christophe de mon objectivité, mon légendaire. Impartialité dans le légendaire, exactement.
Non, mais entre Lyon et Saint-Etienne ça va. Entre Saint-Etienne et Metz, je sais où va ton cœur quand même.
35 706 personnes cet après-midi, c'était une vraie belle ambiance et qui a débuté très tôt, hein, parce que ce match était à 13h, mais on a vu des gens arriver dès 11h moins le quart, 11h pour le match à 13h. C'était vraiment un très très beau moment à ce niveau-là, et puis forcément il y a une belle communion à la fin, parce que Roland, tu l'as noté, hein, tous ces points, bah, sur les 6 derniers matchs, 13 points pris sur 18. Imaginez-vous, les Verts, ils avaient 12 points le 26 janvier au matin avant de faire le match en retard à Angers, et derrière, eh bien 6 semaines plus tard, ils en ont 25. Donc tout va bien, ils sont sur le remont de pente. Ça plaît forcément au Savoyard Pascal Duprat de dire qu'on est sur ce remont de pente. Et du coup, tout à l'heure, on lui a posé la question, Christophe, Roland, sur l'idée que est-ce qu'avec cette victoire, ces 25 points, et surtout face à un concurrent direct, eh bien, est-ce qu'un grand pas vers le maintien est fait? La réponse de Pascal Duprat.
Non, c'est 25 points, donc 25 points, on ne se maintient pas. Mais en fait, on envoie quelques signaux depuis quelques temps quand même. Donc... il faut rester humble, il faut qu'on reste dans cette dynamique-là. Il valait mieux gagner aujourd'hui. Tous les matchs sont des finales pour nous. Et l'avantage, c'est qu'on peut en perdre quelques-unes. D'habitude, des finales, si tu les perds, tu rentres chez toi et tu pleures. Cette équipe montre que c'est un groupe uni et que ce sont des garçons exceptionnels dans le comportement.
Ouais. C'est vrai que les débuts de Pascal Duprat avaient été compliqués, Roland, en championnat, même s'il avait obtenu quelques succès en coupe. Mais là, il a semble-t-il, trouvé la clé pour faire fonctionner son groupe.
Hein. Il y a eu les trois premiers matchs, je crois que c'est trois défaites. Les scores et notamment les scénarios, quand tu vois une défaite contre Lens, alors que tu mènes 1-0 à la 89e et que tu perds 2-1 ce match-là. Alors évidemment, c'est un coup de marteau sur la tête, mais c'est une défaite qui te fait dire qu'avec un peu de réussite, ce groupe-là peut s'en sortir. Et ensuite, il y a eu les arrivées et les retours en forme des nouveaux joueurs, que ce soit Bernardoni, que ce soit Thiou, enfin, je vais pas tous les citer. Donc ça fait que là, on peut quand même être optimiste du côté de Saint-Etienne, mais pas d'un optimisme.
Oui, d'ailleurs, tu as entendu Pascal.
Absolument.
il le dit, non, avec 25 points, on n'est pas maintenu. Il faut continuer, évidemment, à aller de l'avant et remporter les prochains matchs. Quel est le calendrier, d'ailleurs, des Stéphanois, Edouard? Est-ce que le calendrier leur réserve des adversaires à leur mesure, ou alors
quand on est 17e, tous les adversaires sont difficiles, mais bon, le prochain match c'est vendredi du côté de Lille, chez le champion de France, et ensuite il y aura un autre match du type du jour, c'est face à Troyes le vendredi 18 mars. Donc là c'est un match à 6 points, et puis il y aura, parce que dans ce championnat des cancres, le troupeau des cancres, c'est ce que nous disait en conférence de presse avant le match Pascal Duprat, donc il y aura aussi Bordeaux et Lorient, mais ces deux adversaires directs, les Stéphanois vont jouer à Bordeaux et à Lorient. Dans les affrontements directs dans les 11 derniers matchs, 12 avec celui d'aujourd'hui, il y avait deux réceptions, celle de Metz et puis la réception de Troyes, donc, et ensuite il y aura Lorient et Bordeaux dans ce mini championnat des cancres. Mais comme il l'a dit, toujours dans sa formule animalière, on va dire, il dit voilà, on a enlevé notre bonnet d'âne, on a rattrapé le troupeau des cancres, et puis maintenant on s'en est un petit peu extrait. Et franchement, il y a une bonne dynamique, on le sent dans les joueurs. On a eu Riyad Boudbouz, on a eu Sada Tube tout à l'heure. On sent beaucoup de confiance en eux, donnée par le staff, et on sent des yeux aussi qui ont envie de bien faire et qui savent ce qu'il faut faire pour bien faire. Et puis il y a une donnée fondamentale, messieurs, c'est que le public désormais ne marque plus contre son camp, c'est-à-dire qu'il encourage son équipe au lieu peut-être de leur faire perdre de la confiance avec des sifflets et autres banderoles. Et ça, on sent aussi, parce que ce mot de confiance, on le sent dans les mots des joueurs, c'est important, cette confiance donnée par le coach et puis aussi donné par le public. Remarquez, le public, il est mis en confiance parce que les joueurs donnent beaucoup sur le terrain. Donc après, qui de la poule et de l'œuf fait le premier pas? En tout cas, pour l'instant, il y a vraiment, on est loin, loin de tout ce qui se passait en octobre-novembre entre les supporters et les joueurs. Ouais. Cette ambiance délétère, ben là, on est dans une belle ambiance, et au final, ça rend des belles après-midi, pour quelqu'un de totalement neutre comme moi.
Match de 13h et tout, voir autant de monde. Dans ce match-là, c'est sûr que c'est encourageant.
Ouais, évidemment.
Il faut noter juste qu'il y avait un gros effet. Les places à 10 euros. Toutes les places du stade à 10 euros. C'était une volonté du club. Et du coup, elles se sont arrachées dans un premier temps. 20 000 ont été arrachées rapidement, ces places. Alors 10 euros, celles du COP, déjà, sont à 10 euros. Mais pour les places ailleurs. Et les places achetées aujourd'hui donnaient droit aussi à avoir une place à 10 euros pour le match face à Troyes. Et donc, d'accord, il va y avoir.
Donc, tu avais des places à 10 euros.
40 000 personnes.
Même prix présidentiel et dans le COP.
Exactement. Exactement. Voilà.
D'accord.
Et voilà. Et c'est pour ça qu'au final, on a beaucoup de monde. Alors, certes, il y aurait eu quand même, vu les matchs, il y aurait eu du monde dans le chaudron. Mais cet aspect financier est très, très important. Vous l'imaginez. Et il y avait une banderole d'ailleurs qui disait enfin des prix populaires. Et du coup, finalement, on a un stade plein. Voilà, cette communion qui s'explique. Il y a une vraie, vraie bonne dynamique aussi à ce niveau-là. Et cette bonne idée de faire des billets à 10 euros pour ce match. Et puis, pour le prochain match. Et il y aura sûrement un pass pour les trois derniers matchs à Saint-Etienne pour accompagner aussi cette volonté de maintien que veut tout un club.
Très bien, voilà Saint-Etienne qui est en train de réussir son pari
sur la bonne voie.
Pascal Duprat, donc, appelé en tant que pompier volontaire, et bien il s'en sort plutôt pas mal, Pascal, avec cette nouvelle victoire de Saint-Etienne et désormais cette place de 17e avec 25 points, soit un de mieux que Lorient, 3 de mieux que Metz et Bordeaux. Bordeaux qui ferme la marche et qui s'est incliné cet après-midi 2-0 face à 3. Merci Edouard. La semaine prochaine. Donc vendredi soir entre Lille et Saint-Etienne. Match important, évidemment. Les Lillois qui, de leur côté, mènent, on vous le rappelle, 1-0 face à Clermont à la pause. Et puis sachez que Kevin De Bruyne mène désormais 2-1 face à Manchester United. Et oui, le buteur belge, le joueur de cette équipe des Citizens, qui a inscrit les deux buts de son équipe, 33e minute dans ce match, dans ce derby mancunien. 18h03, on revient dans un instant sur RMC pour la suite de Lille-Clermont.
RMC Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
18h05, les Lillois et les Clermontois qui sont en passe de rentrer sur le terrain pour la deuxième mi-temps. On vous rappelle qu'à la pause, eh bien, ce sont les Lillois qui mènent 1-0, un but inscrit dès les premières minutes de cette rencontre. Un petit détour par le hand, ça se passe à Toulouse. L'équipe de France féminine opposée à la Croatie sous les yeux de Morgane Maury.
Les deux dernières minutes de la première période, 11 pour la France, 9 pour la Croatie. Si les Bleus l'emportent, elles seront qualifiées pour l'Euro cet automne. Les Bleus qui ont mené de 3 buts, Christophe, mais qui ont connu un gros passage à vide, 8 minutes sans faire trembler une seule fois les filets. Les Croates sont revenus à 8 partout, mais derrière, nouvel écart réalisé par les Bleus. Il reste 1 minute et 20 secondes dans cette première période. 11 pour la France, 9 pour la Croatie.
Merci Morgane, à tout à l'heure. Roland, voilà, les Lillois qui sont de retour sur la pelouse, les Clermontois non. Ils n'ont pas envie de revenir, ils sont bien dans le vestiaire. Ils font la sieste. Comme Roland, je fais la sieste lui aussi. Voilà. Allez, les Clermontois qui sont en train de revenir sur la pelouse. Timothée Mémon, Jean Baumel sont également avec nous pour nous faire vivre cette deuxième mi-temps.
Absolument, des Lillois qui mènent 1-0 depuis la troisième minute de jeu. Et le but de Jonathan Bamba, pas de changement à signaler vraisemblablement pour le début de cette seconde période. Ben Arfa est toujours là, tout comme Renato et Bamba. Jonathan David à la pointe de l'attaque côté Lillois. Retour également des Clermontois sur la pelouse qui pourrait être menée un peu plus largement si Benjamin André notamment avait converti un beau face-à-face et une tête sur laquelle il était totalement seul sur corner. Mais ça fait que 1-0 et le suspense reste entier. Attention à cette seconde période. Le coup d'envoi a failli être donné, mais faux départ de la part de Jonathan David. Cette fois, c'est la bonne. C'est parti pour cette seconde période entre le LOSC et Clermont.
Et pas de changement de chaque côté. Les Clermontois qui ont donné le coup d'envoi de cette seconde période. Et voilà, tout le monde répéter la même chose ici, que ce soit les supporters, les journalistes, tout le monde, voilà, l'analyse par rapport à Lille, c'est attention, ils l'ont déjà fait tellement de fois de mener et d'être rejoints. S'ils ne font pas le break, les 10 dernières minutes risquent d'être compliquées parce que clairement on va pousser pour essayer d'arracher l'égalisation. Et ce scénario-là, Lille l'a déjà vécu un paquet de fois, notamment à domicile. Le ballon qui est toujours clermontois avec une construction là qui part du milieu de terrain avec Gatien, le fils de Pascal Gatien, qui est donc capitaine d'ailleurs de cette équipe de Clermont, et ça passe sur le côté droit, le côté favori des Clermontois.
Avec cette balle pour Hakim Zedaka. Zedaka qui voit ce ballon lui revenir. Zedaka, le centre au second poteau. La tête de Kiey, elle passe juste au-dessus de la cage de Léon Jardim. Et bien voilà
Blaio ce que l'on devant disait. La télé, il devait avoir les boules.
Oui, Bayo, il l'aurait peut-être mis 20 cm en dessous, sous la barre. En tout cas, elle est belle. Il y a un bel investissement, un beau mouvement de la part de Greg John Kiey. Ce ballon sur lequel il s'élance, il est très très bien centré, ce ballon de la part de Zedaka. Et le duel remporté face à José Font. Attention, c'est quand même un client. C'était Botman, c'est un client aussi, pardon. En tout cas, attention à des Lillois qui viennent de se prouver. Si besoin était qu'ils n'avaient qu'un but d'avance et qu'ils étaient à la portée de leur adversaire, à l'image des Clermontois qui repartent à l'attaque,
ils sont
à la
pas faute. Bien, ils sont pas bien rentrés dans le match, les Lillois, dans cette seconde période, dans ce début de seconde période.
Qui est bien rentré.
Ah ouais, carrément. Et alors Renato Sanchez qui avait tenté de passer un Clermontois, et on a vu un enchaînement intéressant, me semble-t-il, d'Abdoul Saven. Mais en tout cas, on va voir suivre le coup franc pour les Clermontois, complètement décalé côté gauche. On est à 2-3 mètres de la ligne de touche. Ça va rentrer, ça sera dans la surface de réparation. Hein. Ça sera pas direct. Avec une tentative à suivre de la part d'Acunia qui va le tirer, qui glisse d'ailleurs. C'est dégagé par Benjamin André en chandelle directement sur Renato Sanchez qui concède la touche.
On a déjà parlé de la pelouse en première période, mais ils sont nombreux, les Clermontois, à glisser sur cette pelouse de Pierre Morois. Drôle d'idée que de la changer en plein hiver. Hein. Je suis pas jardinier, mais.
Ah, mais t'es dans un état. Ouais.
Non, mais d'accord, mais enfin.
Il y avait que ça à faire.
Juste la preuve du contraire, c'est au printemps.
Hein. Hiver, ouais.
Ouais, il faut, c'est plutôt au printemps qu'il faut essaimer. Voilà, on demandera à Nicolas le jardinier son avis, mais pour le moment, en tout cas, elle a subi cette pelouse et c'est vrai que ça va être dommage pour les caméras de télévision avec un gros rendez-vous pour les Lillois, peut-être. Allez, si évidemment un grand rendez-vous sportif, le 8e de finale retour de la Ligue des Champions face à Chelsea, c'est évidemment un moment important, mais on peut quand même avoir la sensation que ce rendez-vous sera symbolique étant donné le résultat du match aller.
Tu crois pas toi.
Tu sais comment ça se passe, hein. Ouverture du score des Lillois en première mi-temps. Et
oui, un petit carton rouge par-ci par-là, une erreur, une glissade, on est bien d'accord.
Trois buts contre son camp et ça passe, hein.
On est bien d'accord. Je suis le premier à le penser et à le prôner, mais mais on regarde ce que propose Lille ces dernières semaines et ce que propose Chelsea. Il y a quand même.
Oui, d'accord, mais tu peux pas quand même penser que ce qui se passe à la tête du club ne peut pas changer l'atmosphère dans le vestiaire. Hein.
C'est juste, coach. C'est vrai que le club de Chelsea a à sa tête Roman Abramovic, qui a pris du recul, évidemment, étant donné la situation de la Russie en général.
Est-ce que les joueurs seront payés? Oligarques. Ils sont peut-être pas payés. Il y aura peut-être des problèmes. On ne sait jamais. Non, je suis un peu loin là.
Chelsea est à l'abri de ce genre de problème. Qui ce week-end n'a pas semblé affecté. Hein. Ils se sont imposés 4-0 sur la pelouse de Burnley hier. Hein.
Ah. Non, c'est vrai que c'est une belle équipe et puis c'est une équipe qui a vu certains joueurs revenir en bonne forme et qui est bien continue à carburer. Bref, on verra ça dans une dizaine de jours. Avant cela, il y a évidemment la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain qui a nettement plus de chances de son côté face au Real Madrid. Il s'était imposé 1-0. Ce sera mercredi, évidemment, à suivre sur RMC. Et le ballon dans les pieds lillois, cette récupération avec Atem Ben Arfa. Il faut qu'il fasse du bien, il faut qu'il permette à cette équipe de respirer, mais il va faire faute au lieu de ça, Atem Ben Arfa, et ce sera un très bon coup franc en faveur des Clermontois à l'angle de la surface de réparation avec un carton jaune sorti à l'encontre d'Atem Ben Arfa.
Ouais, attention le coup franc là, début de seconde période totalement clermontoise. Les Lillois n'ont quasiment pas fait une incursion dans le camp des Auvergnats. On va surveiller ça de près, ce coup franc très intéressant. C'est Gatien qui a peut-être le tiré, non? Finalement, ça sera Jason Berthomier, quasiment à l'angle de la surface de réparation, un petit 1m50 en retrait. Il y a vraiment une belle opportunité. Tout à l'heure, Kay a raté son jeu de tête face à Jardim, c'était au-dessus. On va suivre de très très près avec ce mini-mur formé par les Lillois avec Ben Arfa et Renato
et attention,
Sanchez.
Attention à Outunji, hein, qui est très bon dans ce domaine. Allez, le coup franc.
Le coup franc avec Jason Berthomier qui attend impatiemment le coup de sifflet de Monsieur Léonard. C'est parti en retrait. La frappe, c'était pas mal fait. Mais la frappe de Dacunha passe largement à côté. Mais dans l'intention, dans l'effet de surprise, c'était plutôt pas mal fait. Mais ça n'a pas marché pour les Clermontois.
Plutôt que de mettre le ballon dans la surface de réparation de façon aérienne, il l'a centré en retrait au ras du sol pour Dacunha qui arrivait lancé, qui a pris ce ballon pied gauche, mais ça tape un petit peu la cheville, un peu le dessus du pied de Dacunha et ça finit très très haut dans les tribunes des supporters lillois. On l'a dit, hein, qui ont vraiment répondu présent aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu des belles affluences aujourd'hui d'une manière générale en Ligue 1. Ça fait du bien et on sent que l'arrêt de certaines restrictions sanitaires pousse quand même les gens à revenir dans les stades. On a vu de très belles affluences aujourd'hui, plus de 35 000 spectateurs au stade Pierre Mauroy. 1-0 en faveur de Lille, 52e minute de jeu.
Et sachez que Manchester City mène toujours 2-1 face à United à 3 minutes de la fin de cette première période. On va faire un petit tour à Marseille maintenant, le stade Vélodrome qui sera sans doute plein ce soir pour la réception de Monaco, dernière rencontre de cette 27e journée de Ligue 1 que Jeannot Etseguet en compagnie de
Florent. Attention Lillois avec un ballon en profondeur et le ballon qui est stoppé par c'était Celik qui était monté tel un attaquant et c'est un petit peu empalé dans la défense clermontoise. Toujours 1-0 pour Lille, 52 minutes.
Voilà, alors ce sera Clément Brossard avec Jeannot. Vous voyez, on a changé d'équipier. Salut Jeannot.
Bonsoir.
Comment ça va?
Salut, très bien, impeccable.
Ouais, bon petit match ce soir. Marseille-Monaco.
Oui.
Belle affiche quand même.
Un bon match. Il y a l'enjeu des deux côtés. Il y a surtout le fait que Nice a battu le PSG hier soir et qu'au niveau du classement, il y a un petit coup de pression de la part des Niçois. Je savais que ça te plairait. 49 points pour Nice, 47 points pour l'Olympique de Marseille. Et puis il y a la victoire aussi de Rennes face à Angers qui revient à un point de l'Olympique de Marseille. Marseille battu à domicile.
Bon, il craque pas.
Oui, enfin, ils sont à 44 points. Donc, allez, ok, ils sont à 3 points. Je te les accorde. Mais de ce côté-là, Marseille reste quand même sur une défaite à domicile face à Clermont, reste sur un match nul à 3 et a donc besoin de retrouver un petit peu, c'est une expression très employée ici à Marseille, de fraîcheur mentale avec une victoire et de s'imposer et puis de se relancer un petit peu dans ce championnat de Ligue 1 après un coup de mou. Et puis en face, Monaco, c'est 38 points. C'est un coup derrière la tête avec l'élimination en Coupe de France. Un coach Philippe Clément au bilan mitigé qui ne s'est pas caché après le match contre Nantes. Il a évoqué le manque de chance de la part de Monaco. Donc voilà, on va voir comment ils vont réagir ce soir ici à Marseille pour rester au contact des premières places, parce que ouais, s'imposer ici, il passera à 41 points. Bon, même si Lille passera à 42, si ça restait sur ce score de 1-0, ou tout du moins si la victoire était confirmée des Lillois. Bref, ça pourrait vraiment se resserrer après notamment aussi la victoire de Lyon à Lorient. Donc voilà, il y a vraiment un intérêt de chaque côté ce soir.
Ouais, si on calcule du côté de l'OM, on pourra ajouter quand même que pour une fois, il y a eu une semaine entière tranquille. En train oui, de regarder
avec deux jours de repos après le nul à 3.
En train de regarder Monaco se faire éliminer à Nantes, et là on sait très bien qu'il va arriver 5 matchs en 14 jours. Donc quand on a déjà perdu 19 points à domicile, il est hors de question que l'on puisse envisager ne serait-ce que de faire un match nul ce soir.
Mmh, oui, 5 victoires, 5 nuls, 3 défaites, tu fais bien de le rappeler, pour l'Olympique de Marseille. Et c'est certainement au Vélodrome que le classement aujourd'hui aurait pu être meilleur, avec un peu plus de réussite, un peu plus de vigilance. Ouais, 19 points à domicile.
Sincèrement, tu perds 19 points
quand tu es dans les 3 premiers.
Tu veux le faire exprès, presque. Alors, évidemment, j'exagère, mais tu arrives pas.
Ouais, est-ce que tu as une explication à ça?
Un match nul ce soir, tu perds 21 points à domicile et tu es toujours dans les 3 premiers. C'est comment je peux l'expliquer? Mais j'allais te dire justement que c'est inexplicable. Malgré ce, on peut quand même.
Oui, parce que c'est pas le public n'a pas pris son équipe ni son entraîneur en grippe, comme ça a été le cas par le passé. Ça, tout pour a l'instant. L'air d'aller bien. Pour l'instant, ouais, tu as raison. À Marseille, ça peut vite changer. Mais voilà, ce n'est pas justement une attitude du public qui peut expliquer ça.
C'est-à-dire que Florent Germain me glissait à l'oreille le fait que sur l'Olympique de Marseille, façon Sampaoli cette saison, et il y a ce match référence, en tout cas pour les supporters, le 5-2, le fameux 4-4-2 en losange que les supporters avaient apprécié, mais pas Sampaoli, parce qu'il a estimé à ce moment-là que malgré la victoire 5-2, Marseille ne maîtrisait pas assez le jeu. Et il y a vraiment débat dans les choix de Sampaoli, dans les mises en place de Sampaoli, par rapport à ce que souhaiteraient voir les supporters. La titularisation de Milik ce soir devrait permettre de voir l'attaquant polonais, pourquoi pas, retrouver des couleurs. Mais souvenez-vous, Dimitri Payet, qui est rare, qui s'exprime rarement dans les médias, qui était cette semaine sur RMC dans Rotten sans flamme, et avait très bien dit et expliqué le fait qu'il était ravi d'être dans cette position de 9,5, parce que il était beaucoup plus à l'aise. Donc est-ce que ouais, ça veut dire quelque part que c'est difficile pour lui, ou à l'inverse pour Milik, de jouer avec Payet? La réponse on l'aura peut-être ce soir dans la compo d'équipe, mais il y a vraiment débat dans la façon dont Sampaoli souhaite faire jouer Marseille, et dans la façon dont les supporters, les fans de l'OM aimeraient voir jouer Marseille.
Ouais, mais bon, moi je pense que là on complique les choses déjà, non? Donc quand je regarde l'OM jouer sans Milik, et notamment le dernier match à 3, je vois Payet la moitié du temps être toujours sur le côté gauche, et puis on n'a jamais dit que Payet il était obligé de jouer à gauche avec Milik. Tu peux jouer en retrait de Milik. Donc, et quand je vois sincèrement que du côté de Marseille, je l'ai déjà dit et je le redirai toujours, mais Milik c'est un problème. Mais Milik ça doit être une solution, pas un problème. C'est incroyable ça quand même.
Incroyable, on verra. Alors, donc
tu me dis après qu'il y a deux solutions à Marseille. Une solution avec Milik, une solution sans Milik. Ok, peut-être. Mais
il n'y a pas beaucoup de solutions sans Milik pour l'instant.
Ma foi, que Milik soit. On puisse dire que l'OM est moins bon sans Milik. Ah, sincèrement, je préfère, ouais, préfère pas.
Deux précisions. Under forfait, malade vendredi, ne s'est pas entraîné. Logiquement, Lirola devrait monter d'un cran et se retrouver dans cette position à droite. Alvaro ne fait pas partie du groupe. C'est un choix du coach Sampaoli. Pour Monaco, Maripane forfait, touché au genou face à Nantes en Coupe de France. Retour de Badiachil et de Golovin dans le groupe. Mais fort possible que ni l'un ni l'autre ne débute la rencontre.
Très bien, ben on te retrouve tout à l'heure, Jeannot, 20h45. Exactement. Pour le coup d'envoi de ce match entre Marseille et Monaco, avec à tes côtés Clément Brossard pour ce dernier match de la 27e journée. À tout à l'heure, Jeannot. Sachez que c'est la mi-temps à Manchester et que pour l'instant, avantage aux Citizens qui mènent 2-1. Et puis nous sommes toujours évidemment à Pierre-Mauroy. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose, donc voilà, on en est toujours à 1-0. Est-ce que les Clermontois sont toujours aussi vaillants après un bon début de deuxième mi-temps, messieurs?
Ah, carrément. Carrément, ce sont eux qui ont toujours le ballon, qui tentent des choses. Alors, ils sont pas dangereux, hein, Tim, mais Lille ne propose rien. Donc, c'est ça qui est un petit peu inquiétant pour une équipe championne de France qui est en Ligue des Champions. Offensivement, ils n'y arrivent vraiment pas. Il suffit de dire ça. Peut-être qu'ils vont faire mentir avec l'accélération de Ben Arfa.
Attention, Ben Arfa, là, avec la possibilité de compte, c'est bien fait. Ce ballon sur le côté gauche pour Jonathan Bamba qui s'en mêle un peu les pinceaux, mais qui va quand même pouvoir aller de l'avant. Jonathan Bamba qui rentre dans la surface de réparation. Jonathan Bamba qui tente le dribble, il va passer avec un peu de réussite. Et le retour défensif pour un corner concédé par les Clermontois. C'est vrai qu'on a vu que Clermont sur la pelouse depuis le début de cette seconde période. Ils ne se sont pas montrés très dangereux, mais attention parce que ça se rapproche pour les Auvergnats. Mais corner à suivre pour le LOSC.
Le troisième corner, et on sent bien que Lille attend Clermont, mais c'est un peu trop. C'est un peu trop abusé, je trouve, quand t'es à domicile, t'as ton public qui chante. Faut emballer aussi un petit peu la rencontre. C'est parti, le corner de la gauche vers la droite avec le premier poteau. Ce ballon de Ben Arfa, la récupération de Sheka, le petit contrôle raté. Et c'est un contre peut-être pour les Clermontois. Il y a un bon coup à jouer avec ce ballon profondeur, mais heureusement Diallo, il a été freiné, ce ballon, à récupérer cette balle. Et Jardim sort de sa surface.
C'est qui ou c'est quoi qui a freiné ce ballon?
C'est Zeki Celik. C'est le retour de Zeki Celik. Non, c'est pas la pelouse. Heureusement, il a eu toute l'intelligence de ne pas essayer d'intercepter ce ballon. Il est simplement venu se positionner là où la balle avait le plus de chances de passer. Et ça a freiné, ça a empêché le compte qui aurait pu être fatal. 60 minutes de jeu, 1-0 en faveur de Lille face à Clermont.
Et la suite de ce match est dans un instant sur RMC, dans l'Intégral Foot. À tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
Christophe Cécile.
18h23, l'heure de jeu est dépassée à Lille où les Lillois mènent 1-0. Les Lillois qui dominaient complètement leur sujet en première mi-temps, qui ont très rapidement marqué dans ce match, mais qui se sont, semble-t-il, un peu endormis, Roland. Et c'est dangereux parce que Clermont, oui, du coup, se met à y croire.
Oui, parce qu'ils n'ont qu'un but d'avance. Le break n'a pas été fait.
Ouais, loin de là, le break. Et on sent même plutôt les Clermontois en mesure de revenir au score, hein, messieurs. Enfin, c'est pas encore fait, hein.
Ouais, il va falloir se montrer un peu plus tranchant de la part des Clermontois qui ont la possession, qui sont au cœur des situations sans qu'on puisse vraiment appeler ça des occasions pour autant. Les Clermontois qui ont en tout cas rééquilibré la possession par rapport à la première période, ils sont nettement mieux, ils se sont réveillés comme tu l'as signalé à mesure que Lille s'est endormi. Ballon dans les pieds de Thiago Diallo. Il y a quand même des possibilités parfois en contre pour les joueurs du LOSC avec Jonathan Bamba qui réussit un petit festival au milieu de trois joueurs. Sheka qui va essayer de lancer Jonathan David.
Sheka, il est pas dedans depuis le coup d'envoi, j'ai l'impression. Je trouve que au milieu de terrain, peut-être que le premier changement, ça sera Onana du côté de Lille, mais je sais pas, je trouve, il a pas mal râlé en première mi-temps. Je trouve pas en grande forme là, alors qu'il y a une faute là, peut-être de Renato Sanchez sur un Clermontois. Et le premier changement sera d'ailleurs pour le club auvergnat. J'ai vu le numéro 6 de Kawi. Saïf Eddine Kawi qui lui va faire son entrée, mais est-ce que ça sera pour tout de suite? A priori oui.
Ouais, alors Raoui qui va
faire un petit striptease là sur la pelouse de Pierre-Mauroy. On
chante. C'est juste pour toi.
Un peu magnifique. Merci.
Avec un garçon, un boxeur comics, avec pas mal de petites vignettes. Vous saurez tout. Vous saurez tout, évidemment. C'est la force des RMC. On voit tout, on vous dit tout. Avec donc Raoui qui va venir remplacer Jason Berthomier. On va faire rentrer donc un créatif à la place de l'autre créatif. Raoui qui va donc rentrer sur la pelouse et ce coup franc à venir pour les Clermontois sur le côté gauche pour les frapper. Ce sera Gastien, fils de, qui va mettre ce ballon dans la surface de réparation. Donc, qui va jouer justement en traite sur basket. C'est servi à nouveau avec Gastien qui, cette fois, va mettre le ballon dans la surface. Ce sera pour la tête de Zeki Celik. Un ballon qui va revenir dans les pieds auvergnats avec Dacunha. Dacunha qui va essayer d'écarter vers Zedaka. Un ballon qui reste Clermontois. La possibilité de mettre ce ballon dans la surface de réparation, ça n'est pas fait. On va repasser par l'axe avec Abdoul Samed et ce ballon qui va aller circuler sur le côté gauche. Ils avaient la possibilité de s'approcher de la surface de réparation, ils ne l'ont pas fait. Ça résume un petit peu leur seconde partie de match, leur deuxième période. Ils s'approchent de cette surface sans être véritablement tranchants. En tout cas, Lille mène toujours 1-0.
On a l'impression que c'est même Clermont, franchement, celui qui débarque de Mars. Il fait l'abstraction des couleurs. Il a l'impression que c'est Clermont qui joue à domicile parce qu'ils ont souvent le ballon. Non, mais c'est moi, c'est ça qui m'étonne. C'est de voir Lille laisser venir les Clermontois. Alors, on sent bien que c'est la tactique de Josa Grovenec pour les contrer. Mais il y a un moment aussi, il faut faire un peu plus d'efforts pour vraiment se mettre à l'abri, parce que à ce jeu-là, t'es plus près de l'égalisation que de doubler la mise. Hein.
Attention là, justement, avec le pressing de Benjamin André qui a compris, hein, qui fait le même constat que toi, Jean, et qui essaye de mener la révolte, qui essaye de pousser ses coéquipiers de véhémence. Nsiba qui est très en colère parce que Benjamin André lui est arrivé dessus à 2000 à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Nsiba? Il se rapproche de l'axe. Il a pris un carton jaune de colère. Vital Nsimba, le joueur de République démocratique du Congo, et le ballon rendu au Clermontois. C'est la contestation.
C'est Cédou qui a pris un carton.
Ah, c'est Cédou, autant voilà. Pour moi.
Ouais. L'ivoirien. C'est moi aussi qui ai dit Nsimba à la base. Donc c'est Cédou qui prend le carton jaune dans cette affaire. Le ballon qui sort en faveur des Clermontois. Lille qui continue de subir volontairement le jeu, parce qu'on sent pas une équipe qui a envie de se faire mal.
66e, 1-0 pour Lille face à Clermont, but de Jonathan Bamba.
Très bien, messieurs, on va vous quitter quelques instants. On est évidemment attentif à ce qui se passe. Et vous n'hésitez pas à nous interrompre, mais on va parler de rugby un petit peu quand même, parce qu'il y a un beau match qui nous attend ce soir. On l'appelait le classique du rugby. C'était il y a quelques années entre le Stade Français et le Stade Toulousain. Bon, il a un petit peu perdu de sa superbe, le classique, mais c'est un match intéressant qui va donc se dérouler ce soir et qui nous sera commenté par la voix du rugby sur RMC. C'est le patron de la rubrique rugby, Jeff Paturon, qui est avec nous.
Bonjour,
ça va, mon Jeff?
Bonjour, coach. Bonjour à tous. Ouais, tout va bien.
Salut, Jeff.
Ouais, il a pris un peu de plomb dans la tête, le classique du rugby français.
Disons que si ça avait été une période hors doublon, il aurait pris un point de plomb dans la tête. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'absents, on le rappelle. Mmh. Il en manque 9 des internationaux, ouais. Notamment dans les rangs toulousains. Bay, Marchand, Movaca, Dupont, Velon, Entamac.
Alors que ce n'est officiellement pas un week-end de doublon, puisque l'équipe de France ne joue pas ce week-end.
Mais il y a quand même des joueurs protégés. Et c'est l'avantage, c'est que ces joueurs-là sont dispensés de top 14. Contrairement à Mathis Lebel, qui lui jouera le match.
C'est le seul, l'unique, l'élu.
Les autres sont déjà sur le terrain. Marcoussier, aujourd'hui, ils étaient déjà à l'entraînement.
Oui, parce que le prochain match arrive rapidement.
Je vous interromps, messieurs, rapidement, parce que c'est Salis Abdoul Samed qui vient de faire une faute d'anti-jeu et je crains qu'il ne prenne son deuxième jaune.
Et voilà.
Et c'est fait. Il était au sol. Il a tenté le coup du gars qui s'est blessé pour éviter le carton jaune. Il savait qu'il avait déjà été averti. Carton rouge donc à l'encontre de Salis Abdoul Samed. Ça va évidemment changer la physionomie de la suite de cette rencontre. Lille mène toujours 1-0, mais les Clermontois vont devoir essayer de revenir à 10 seulement. Ouais. Et pendant 23 minutes.
Voilà, c'est compliqué. Évidemment, ça va être de plus en plus compliqué pour les Clermontois. On revient au rugby avec Jeff Paturon, donc pour évoquer ce match entre Paris et Toulouse. Donc 9 Toulousains absents. Un match qui aurait dû se dérouler il y a quelques temps. C'était à l'époque du Covid.
Non, c'est celui-là, il était programmé au bon moment. C'est celui d'il y a 3 semaines.
Ah oui.
C'est celui d'il y a 3 semaines qui avait été.
Donc celui-là,
il fait partie de la 20e journée. Il n'y a pas de problème.
C'est le précédent qui effectivement aurait pu faire.
Le précédent qui aurait pu discuter, rappelle-toi, pendant les fêtes de Noël. Pendant les fêtes de fin d'année, il y a eu des cas de Covid dans les rangs du Stade Français, aux grandes dames notamment des Toulousains, parce qu'ils avaient un stadium comble et ils l'ont joué il y a 3 semaines. Ils l'ont perdu il y a 3 semaines.
La maison face à Paris, oulala.
À la dernière minute, sur une pénalité de Joris Segond qui serait titulaire dans les rangs du Stade Français ce soir, alors qu'ils étaient bien en place en première période, les Toulousains. Depuis, on rappelle que les Toulousains ont renoué avec la victoire la semaine dernière contre l'Union Bordeaux-Bègles. Ça a fait du bien parce qu'ils étaient sur 6 défaites consécutives en top 14, ce qui n'arrive jamais pour les Toulousains.
Attention avec Jonathan David et qui rate sa frappe. C'était une belle opportunité, ce centre devenu de Celik. Il n'est pas réussi, Jonathan David. Enfin, surtout, il n'était pas en grande fraîcheur mentale parce qu'il n'a pas marqué en 2022. Et ce genre de ballon, dernièrement, ça faisait mouche. Pardon, coach.
J'ai dit son appel, il est bon par contre.
Bah oui, c'est ça. Et son geste, et après, il est pas bon, il est pas dans le bon timing là. C'est voilà, c'était le Jonathan David 2021, ça la met quasiment au fond. Puis là, c'est cette année 2022 pour l'instant ne lui réussit pas. Toujours 1-0 pour le LOSC, il reste 20 minutes.
Ok, on va y arriver, Jeff.
Ouais,
on
bon,
y arrivera, t'as l'habitude.
Ce sera pire ce soir pendant le match de foot.
Ah oui, ce soir t'as Marseille et t'as Jeannot en face de toi, donc là la concurrence sera rude, évidemment.
Non mais tu pourras couper Jeannot, hein, c'est pas interdit.
Oui, c'est pas interdit, mais il peut me recouper encore plus vite.
Encore plus vite que
il
ce
a un fait alors. C'est officiel.
Donc tu me disais, Toulouse s'est un petit peu rassuré, ouais, avec enfin une victoire face à Bordeaux la semaine dernière. Mais attention, parce que les Toulousains pour l'instant sont hors des clous. Ils sont 7e du top 14 et les Parisiens sont tout juste derrière eux. Les Parisiens, ouais, sont plutôt bien, plutôt pas mal ces derniers temps.
Les Parisiens sont dans une phase ascendante. On rappelle que leur début de saison avait été très difficile, pour ne pas dire médiocre. Ça va mieux depuis. Malgré tout, ils restent sur une défaite la semaine dernière à Montpellier, assez large d'ailleurs. Ils avaient fait un petit peu de tournée, ça leur a fait des tours, notamment en prévision de ce match. Et c'est vrai que quand on regarde l'équipe qui va être alignée ce soir, elle a plutôt de la gueule, si je peux me permettre l'expression, avec notamment une paire de centres Lomapé Waïséa, qui peut envoyer du lourd.
Oui, parce que Lomapé, ça y est, il est enfin arrivé à Paris.
Il a passé
quoi,
la seconde, ouais, ouais. Après, c'est un super joueur, hein. Il fallait le temps d'acclimatation. Et à côté Waïséa, le futur Toulonnais, c'est vrai que cette équipe du Stade français, sur le papier, elle est très intéressante. Il y a quelques adjoints, mais pas des cadres. Alors que dans les rangs toulousains, on le disait, ça va être beaucoup plus compliqué. Par exemple, il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Rodrigue Netti, qui sera pilier gauche, ce sera la première fois qu'il sera capitaine de cette équipe du Stade toulousain.
Et oh, attention, la but ! La deuxième but lilloise ! Avec ce mouvement absolument splendide collectivement de la part des Lillois, à la finition, c'est Jonathan David, le passeur décisif, c'est Renato Sanchez d'une passe en matière, mais il faut voir un peu plus tôt la récupération haute de Fonte qui glisse le ballon à Zeki Celik qui avec beaucoup d'intelligence retrouve Jonathan David, lequel va chercher le 1-2 avec Renato Sanchez, entrée de surface de réparation et dans un angle fermé, la finition pour le Canadien, le 13e but cette saison de Jonathan David, la 5e passe décisive de Renato Sanchez. Et bien voilà, 11 contre 10, il scelle peut-être le résultat de cette rencontre, 2-0 en faveur de Lille.
C'est limite, et ça fait du bien. C'est limite Sanchez au départ de l'action, ouais, est hors jeu, il a l'intelligence de décrocher et en décrochant il est couvert, je crois, par un défenseur lillois. Ça doit se jouer à 10 cm près.
Mais en tout cas, collectivement, c'est un chef-d'œuvre.
Et David, ça va lui faire du bien
Il était temps.
Pour sa confiance.
Alors qu'on va faire des changements aussi, hein, dans cette partie. Les entrées de Bourak et Goodmanson du côté lillois. Voilà, avec Echeka qui va sortir à la place de Goodmanson, certainement. Hein. On va réorganiser l'équipe parce que Goodmanson va se mettre sur le côté gauche et Bourak peut-être certainement même à la place de Ben Arfa. Voilà qui est fait. Et du côté de Clermont, Manier va faire son entrée en lieu et place de qui ? On le saura dans quelques instants, mais en tout cas, 2-0. Ça y est, Lille a fait le plus dur parce qu'en plus, on va rappeler que Clermont joue à 10 depuis l'expulsion d'Abdoul Saled à la 67e. Voilà, Lille devrait continuer son bonhomme de chemin pour espérer une place européenne en fin de saison.
Très bien, 2-0 pour Lille, tout va mieux pour les Lillois. Jeff, je ne sais plus où on en était. Wow. Tu t'en rappelles, toi ?
Oui, on disait qu'il y avait notamment cette paire de centre ICA, Lomapé. Ouais. Lomapé qui est arrivé à Paris, comme tu disais, et c'est vrai qu'il monte en puissance le Néo-Zélandais au 16 sélections, qui est un peu la recrue, qui est la recrue star de cette équipe parisienne à l'intersaison, qui doit encore montrer des choses. Le Stade français, franchement, a une belle équipe sur le papier et part un peu favori face à des Toulousains qui sont en difficulté vu les absences. Mais c'est vrai que ça va être un choc, peut-être un petit peu au rabais, mais ça reste malgré tout un choc. Mmh. Et les Parisiens ont hâte de gagner. Peut-être parce que s'ils gagnent, ils auront une semaine.
Eh oui, ils se remettent en course peut-être pour espérer une qualification, même s'ils sont un peu loin.
C'est vrai
que
c'est très serré. Là, après les matchs de ce week-end, ils sont 10e, 41 points. La 6e place, c'est La Rochelle à 50. Donc ça va très vite. On rappelle qu'après, il y a un mois d'avril qui va être passionnant, notamment pour le Stade français, avec 3 derbies contre le Racing. Le premier en top 14 et les deux autres en Coupe d'Europe. Les 3 premiers week-ends d'avril. Et ça va être passionnant. C'est vrai que s'ils sont dans une bonne dynamique avant d'entamer ce trio de matchs contre le Racing, c'est plutôt intéressant, surtout que le Racing reste sur une défaite à Perpignan hier.
Oui, surprenante quand même de perdre. Ok, mais c'est le score qui...
Ouais, c'était assez étonnant.
En bas, du score. En bas de tableau, ça va mal, hein, pour le Biarritz Olympique. Ouais, d'ailleurs, son président,
Jean-Baptiste Adiger, c'est qu'il y a vraiment un pied et demi, mais il y a les deux pieds en premier. Ouais, Toulon, c'est la première victoire à l'extérieur. C'est vrai que ça fait du bien pour cette équipe toulonnaise qui a des matchs en retard et qui peut basculer récupère une dynamique positive. Mais c'est vrai que Biarritz, dernier, 24 points avec 10 points de retard sur Perpignan, ça commence à être compliqué.
Ça commence à sentir pas très bon pour le BO. Un tout petit mot de l'équipe de France, donc tu le disais, qui est rassemblée à nouveau à Marcoussis avant le match de vendredi. Les nouvelles de l'infirmerie, on a vu que Jalibert était forfait.
Ouais, Jalibert et Jolmes, Thomas Jolmes, le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles.
Il a du mal en ce moment.
Jalibert, est quand même inquiétante.
Ouais, c'est inquiétant. Ouais,
une blessure à l'échauffement, excusez-moi. Ça ressemble plutôt à une rechute qu'à une blessure.
C'est une rechute, c'est ce que lui a dit sur Instagram.
Moi, j'ai toujours entendu dire qu'une blessure, c'est emmerdant, et qu'une rechute, c'était encore plus.
Tu as entièrement raison, coach. On rappelle qu'il s'était blessé au mois de janvier en Coupe d'Europe. Il n'avait pas pu disputer le début du tournoi. Il s'était répété rechute à Marcoussis avant l'Irlande. Il n'a pas pu jouer à l'Irlande, l'Écosse. Il était parti soigner à Saint-Raphaël sous le soleil. Et on se disait que normalement, ça devait être la bonne date. Hier, il devait être titulaire. Et finalement, à l'échauffement, et c'est la poisse. C'est vraiment la poisse.
Non, en fait. Parce que, même s'il y a ce duo Dupont-Intamac, mais quand tu as un Jalibert qui peut rentrer pour les 20 dernières minutes ou les 15 dernières minutes à la place d'un tabac, tu as ce monstre sur la touche, c'est quand même une arme supplémentaire.
Ouais, ça ferait les affaires a priori de Thomas Ramos qui devrait être encore sur le banc. Ouais.
Exactement. Merci beaucoup, Jasmine, qui a suivre ce soir, 21h.
21h05.
21h05.
On peut laisser la place au foot.
Comme allez-y, ça, tu pourras finir le match sans être coupé par Jeannot, parce qu'il aura terminé un peu avant.
On ne sait jamais avec Jeannot.
Ah, et ça commence à 20h45, donc tu devrais avoir 5-10 minutes tranquille. Merci, Jeff. Bonne soirée. Donc avec ce classique du rugby français entre le Stade français justement et le Stade toulousain ce soir à 18h37. Le jeu est reparti en deuxième période à Manchester, toujours avantage pour les Citizens, 2-1 face à United. Le jeu se déroule également à Toulouse en hand où l'équipe de France féminine est opposée à la Croatie. Pour l'instant, tout va bien pour les Françaises, Morgan Mori.
Oui, les Bleus ont tourné à 13-9 en leur faveur à la pause. 44e minute, le PQ l'avance a légèrement gonflé pour les Bleus, 19 pour l'équipe d'Olivier Crumbles, 14 pour la Croatie si elle l'emporte ou si elle font match nul. Elles seront qualifiées pour le prochain Euro. Possession aux Bleus suite à ce très bel arrêt de Laura Glauser dans la cage. 44e minute, 19-14 pour la France face à la Croatie en balle féminin, qualif pour l'Euro.
Ok, on repart à Lille où les affaires lilloises sont bien engagées.
Il y a plus de
mal,
il y a plus de suspense.
2-0.
Donc, mais on regarde avec, comme des passionnés que nous sommes.
Oui, regarde.
Il faut soigner un peu le goal average du côté de Lille qui est à zéro.
Et puis franchement, passionnés nous le sommes, parce que des fois on s'extasie, on hurle sur un geste incroyable, sur un retourné acrobatique, sur un exploit individuel. Mais moi, ce second but collectivement,
le premier était beau, mais le
m'en remets difficilement, parce que le deuxième, franchement, la récupération haute de fonte, il y a plusieurs gestes qui sont exactement parfaits. Attention, cette passe en retrait mal assurée, ça revient sur Bourak peut-être qui va laisser en retrait la tentative pour Benjamin André, la tergie. C'est décidément pas un avant-centre, Benjamin André, avec ce ballon en retrait pour Renatan. La frappe puissante, elle va passer à côté. Pour conclure sur ce que je disais sur le second but lillois, il y a vraiment tout est là, c'est-à-dire que chaque geste est fait intelligemment, chaque mouvement est le bon. À la fois, il y a la mise en place effective de ce qui est fait à l'entraînement, et le tout est agrémenté de la finesse technique individuelle de chacun des joueurs, de Renato, de Zeki Celik qui font le bon geste au bon moment. La finition, elle est belle, mais c'est pas le plus beau but de l'histoire si on prend simplement la frappe. En revanche, sur la conception collective, et ben ça va faire beaucoup de bien à Jocelyn Gourvennec, beaucoup de bien à cette équipe, parce que quand ils vont regarder la vidéo dans un ou deux jours, ils disent vous êtes capable de faire ça. Et on parlait du match face à Chelsea, si vous êtes capable de faire ça, et bien reproduisez-le, parce que c'est vraiment de grande tenue.
Et t'as l'état de Tion comme moi qui ont dit ouais, mais c'était à 11 contre 10.
Mais il y a toujours des grincheux.
Non, mais c'était magnifique. Et dans le jeu, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué, notamment le premier but. C'était un beau centre de Renato Sanchez pour Bamba. Mais c'est vrai que là, la combinaison était parfaite. Et Lille, 2-0 à 12 minutes de la fin, en étant en supériorité numérique, devrait s'imposer. Surtout, continue une bonne série après la victoire à Lyon. Un peu compliqué. Là, ballon profondeur bien donné pour l'accélération. Avec le ballon pour Jonathan David, le crochet. David, oh la parade, fin d'arrêt. Ah, il la met plein axe du but. C'était peut-être le plus dur, c'était de la mettre au centre pour le gardien.
Bah ouais, qu'il allait envelopper sur la gauche du gardien.
Bah oui, non mais là, le plus dur c'était de faire ce qu'il faisait en fait, c'était de la donner au gardien.
Il s'est retrouvé au point de pénalty, il a frappé et ce ballon est allé sur la droite d'Ouparine Joko, qui n'a eu qu'à capter ce ballon. C'est vrai qu'il fait pas un arrêt extrêmement difficile parce que Jonathan David lui tire dessus, bien gêné aussi ensuite par le travail défensif de Saïf Eddine Rawi et les Clermontois ne donnent plus l'heure, hein, très clairement.
Ah bah là,
ils ont eu 20 bonnes premières minutes dans cette seconde période, puis il y a eu l'exclusion de Samed et maintenant à 10 contre 11, mené 2 à 0. C'est extrêmement compliqué avec ce ballon pour Jonathan Bamba. Jonathan Bamba qui porte la balle, qui a l'appel de Zeki Sélik. Zeki Sélik qui arrive lancer le Turc. Oh, la frappe ou le centre, je ne sais pas. Jonathan David n'était pas à la réception de ce ballon.
Il a voulu se faire plaisir, je crois.
Il a voulu frapper, il a voulu le marquer.
Je ne sais pas.
J'ai un petit doute quand même parce que il a une bonne frappe Zeki Sélik, hein. Franchement c'est un joueur qui a une frappe très puissante.
Et ouais, mais quand il s'informe, j'ai l'impression qu'il s'informe.
Ouais, regarde, ouais,
je crois qu'il essaye de la donner.
C'était pas une frappe.
Genre de sentir en espérant que son partenaire en taclant, en se jetant, il puisse la mettre au fond.
80e, 2 à 0 en faveur de Lille face à Clermont.
Qui se dirige donc vers une victoire probable. Les Dogs lillois, 18h41, toujours 2 buts à 1 pour City face à United. Et l'équipe de France féminine de hand qui mène 21-14 face à la Croatie.
RMC, Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
8 minutes encore à jouer dans ce match qui oppose Lille à Clermont. La différence a été faite pour les Lillois qui avaient ouvert le score très tôt dans le match, qui ensuite se sont laissés un petit peu endormis. On a vu les Clermontois se rebiffer quelque peu en tout début de deuxième mi-temps. Et puis il y a eu cette expulsion d'un Clermontois suivi du magnifique but de Jonathan David. Désormais, la messe est dite, hein, Roland.
Oui, complètement. Et là, d'ailleurs, tu vois ce changement, c'est pour ne pas prendre de risque avec Sanchez, qui est quand même, pour moi, le joueur le plus important de cet effectif.
Allez, les 8 dernières minutes, c'est à vivre avec Timothée Mémon et avec Jean Bobel en direct du stade Pierre-Mauroy.
Avec pas mal de changements, hein, pas mal de changements, notamment du côté lillois, les entrées de Zegrova, Donana, Yilmaz, Goodmanson, tous ceux qui sont sortis, c'est Sheka, Renato Sanchez à l'instant, Jonathan David qui était buteur et Ben Arfa. Il y a eu pas mal de changements, hein, 5 aussi du côté de Clermont. Donc, avec tout a été fait, hein.
Notamment à l'instant l'entrée de Pierre-Yves Hamel à la place de Gretjon Kiai, et puis en défense Alidou Seydou a cédé sa place à Jean-Claude Bilong, l'homonyme de Romarin va donc venir rentrer dans cette défense centrale clermontoise. On va éviter de prendre un deuxième rouge parce qu'il a été déjà averti Alidou Seydou. Il a donc été sorti par précaution, semble-t-il. En tout cas, le ballon est lillois et les Lillois mènent 2 à 0. Les buteurs, c'est les deux Jonathan, Bamba et David, qui ont marqué dans cette rencontre. Avec attention, cette déviation, c'était pour Burak Yılmaz. Ça lui ferait sûrement du bien, tiens, au Turc, de participer à la fête. Avec peut-être cette récupération là. Ballon second poteau, Zegrova qui cherche. C'est Jonathan Bamba, ça revient pour Onana. La frappe d'Onana, la parade, ça revient. Et c'est enfant. Et c'est Zegrova, me semble-t-il, qui met ce ballon au fond des filets dans ses équipes. Zeki Sélik, qui déjà tout à l'heure était en position offensive. Le Turc qui vient parachever cette victoire lilloise. 3-0 pour les Lillois avec cette double, triple occasion qui est venue du côté droit. Ce ballon mal dégagé, la frappe d'Onana. Il a fallu deux belles parades de Oufarine Djoko, mais sur la troisième frappe, celle de Sélik, c'est au fond.
Ouais, cette fois c'est plié, hein. Bon, on s'en doutait un petit peu, mais là c'est clair.
Après-midi, pas de blessés. Par rapport à tous les changements que tu nous as donné, là je dirais un mot quand même sur Ben Arfa. Je sais pas comment l'ai trouvé, je trouvais moyen.
Ah oui, Ben Arfa, on l'a trouvé moyen aussi.
Non, franchement, ouais, non, c'était pas. Pour l'instant, c'est pas une réussite, hein, son arrivée au LOSC. On verra d'ici la fin de saison. Est-ce qu'il va peut-être prolonger d'un an, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est pas convaincant à Tem Ben Arfa.
La solution la meilleure, ou disons, la moins moyenne, je vais pas dire la moins mauvaise, ça serait peut-être quand même de le garder pour les 20-25 dernières minutes, pour le faire rentrer avec ses qualités techniques, son dribble, capable d'apporter un coup de pied arrêté important, un pénalty, mais en faire un titulaire en démarrant les matchs, c'est-à-dire dans le 11 de départ, pour le moment, je ne le vois pas encore là.
C'était Bourak, hein, qui était blessé, qui est toujours gêné au pubis. Alors même s'il n'est pas en réussite, c'est vrai qu'il démarrait tout le temps les matchs. Bon, ouais, je suis d'accord avec toi, coach. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Tu remettrais quand même tout le temps Bourak titulaire, même s'il n'est pas terrible cette saison, parce que sur le banc, après, t'as pas beaucoup de solutions. Hein.
Non, mais je pense que Sanchez, même si c'est pas son meilleur poste dans l'effectif de Lille, pour moi, ce serait le 9,5.
Je suis assez d'accord.
Je ne pense que la solution de travail défensif pour se fatiguer et perdre de sa lucidité. Non, dans un 4-2-3-1, mais c'est pour moi celui qui est derrière le numéro 9.
Avec à ce moment-là, sur un côté Bamba et Bamba. Sur l'autre, pourquoi pas Wea, Liadji, à condition que ces joueurs-là franchissent le cap que l'on attend.
Pour faire un petit peu comme a pu faire Deschamps avec Matuidi, comme peut faire Galtier avec Thuram, trouver un milieu qui te consolide ton côté droit et que ton autre côté soit plus offensif. Mais là, les trois gars offensifs pour moi de Lille, c'est David, en retrait de David, Sanchez et Bamba sur un côté. Après, il peut permuter aussi Bamba.
Et donc, de l'autre côté, plutôt un milieu axial reconverti, entre guillemets.
Ouais,
pour.
Je ne sais pas qui peut y avoir. Donc,
Dans ce profil-là, dans son souhait, coach, c'est peut-être Sheka qui se rapprocherait plus du joueur capable de faire cela.
Et à ce moment-là,
il serait compensé par Onana dans l'axe.
André et Onana. Ouais, ça serait pas mal.
Pourquoi pas? On va soumettre l'idée à Jocelyn après la rencontre.
Je pense qu'il a dû y penser.
Allez, la hola de Pierre Morois pour célébrer ce 3-0.
Autant de buts comme ça dans un match à Lille, ça faisait un paquet de temps.
Effectivement, parce que les Lillois mènent 3-0 grâce à Bamba, grâce à Jonathan David et grâce à Zeki Selik, l'international turc qui est venu participer à la fête.
C'est un classement correct.
Et qui revient bien, hein, Zeki Selik, qui était un petit peu critiqué en début de saison, qui a eu des petits pépins, des petites blessures, et qui petit à petit retrouve son côté essentiel à cette équipe lilloise. Il fait partie évidemment de ceux qui sont allés chercher le titre sous Christophe Galtier. Et il y aura un dernier changement côté lillois avec la sortie dans quelques instants de Jonathan Bamba et l'entrée d'Angel Gomez.
Ouais, voilà, il est acclamé, il a fait un bon match. Bamba, il a ouvert le score, il a été assez actif, hein. Ça lui a fait du bien moralement, c'est peut-être bien aussi pour les joueurs offensifs. D'ailleurs, c'est une belle après-midi parce que plus d'un an sans marquer pour Bamba. Le premier but de Jonathan David en 2022, c'est de bon augure pour la suite.
Quand il coupe, il rigole pas. Hein.
Ah non mais c'est ça, belle coupure. C'est une bonne nouvelle en vue du match contre Saint-Etienne vendredi. Sa team crame pas le contraire.
Ah, s'il marque tous les 50 matchs, c'est tranquille pour la semaine prochaine.
Voilà. Et puis c'est surtout pour Chelsea que les joueurs offensifs retrouvent un petit peu de grinta, de plaisir à marquer, de dans la tête, ça va aller un petit peu mieux. Et là, un coup franc pour les Lillois avec des garçons comme Onana qui est intéressant, mais je pensais qu'il allait s'imposer dans ce milieu de terrain, mais non, attention avec Bourak, quand c'est joué trop rapidement, on va rejouer le coup franc et c'est Angel Gomez qui va le tirer.
Mais alors là, c'est vraiment une absence complète de compréhension du jeu de la part de l'arbitre. La faute, elle est quand même pour les Lillois. C'est eux qui ont vu leur occasion être interrompue. Ils veulent la jouer rapidement et parce que le mur n'est pas à distance réglementaire, on l'empêche de jouer ce ballon vers Yilmaz. Bref, Angel Gomez pour mettre ce ballon bien travaillé dans la surface de réparation. Ce sera pour la tête d'Utonji avec un ballon qui revient vers le troisième buteur, Zeki Selik, qui écarte côté droit avec la remontée de balle pour les Lillois. Peut-être la tentative de frappe, elle est légèrement contre. Et elle finit au fond, 4-0 pour les Lillois. Avec cette frappe de Zegrova et Don Zegrova qui participe à la fête, et bien ça aussi ça va faire du bien à cette équipe du Lot, parce que les rentrants participent à la fête. Zegrova qui vient donc inscrire le quatrième but lillois dans cette rencontre
incroyable. C'est en tout cas une fin de match assez incroyable.
Ce joueur, excusez-moi de te couper, je le trouve intéressant.
Vas-y.
Là, il s'est fait expulser dernièrement de façon, je dirais, anormale. Son premier carton était très sévère. Mais lui, tu vois, s'il s'adapte, et là, avec ce but qui est un petit peu chanceux, mais ça fait partie aussi de la réussite d'un joueur, il peut marquer des points et devenir un joueur intéressant.
Il est bien, il est arrivé de balle cet hiver. D'ailleurs, j'étais un peu surpris et on comprend pas d'ailleurs pourquoi il joue pas plus depuis qu'il est arrivé. Alors c'est vrai qu'il a pas eu un temps de jeu énorme à balle depuis le début de saison, mais on était tous surpris parce qu'il a été acheté quand même 7-8 millions d'euros.
c'est quand même une somme aujourd'hui pour un club comme Lille qui veut faire des économies. On est surpris de ne pas le voir un peu plus.
Quelle nationalité déjà?
Kosovar, ouais. Joueur du Kosovo. Et c'est son quatrième match, un premier but pour Zegrova, Edon Zegrova, qui jouait effectivement à Bâle auparavant. On est dans la minute, l'unique minute de temps additionnel. 4-0 dans cette rencontre, pas la peine d'en rajouter. Ça, ce coup-ci, intelligence de la part du corps arbitral.
Oui, autant en première mi-temps, on était surpris. Et là, on aurait pu dire, bah écoute, il y a eu 10 changements. Ça fait 5 minutes.
Mais c'est terminé. On n'est pas allé plus loin. 4-0. Très bel après-midi pour les Lillois dans un stade Pierre Morois quasi comble, qui a vu tout à sa joie son équipe l'emporter 4-0. Festival de buts. Vraiment, que du positif pour cette équipe lilloise. Et pour les Clermontois, attention, 28 points, quelques encablures d'avance encore sur le barragisme. Mais il va falloir faire attention parce que celle-ci, elle va faire mal au moral.
Un petit détail, donc le football s'est fait de pas mal de débats et on ne sait jamais qui c'est qui a raison. Vous êtes pour le fait que quand il y a 4-0, il n'y a pas de temps additionnel?
Alors, bah moi non, je trouve que s'il y a 5 minutes, il y a 5 minutes, hein, ça peut faire
déjà,
un but de plus.
En première mi-temps, l'arbitre avait donné qu'une minute de temps additionnel.
Qu'il aurait dû en avoir plus.
Tu peux te qualifier ou descendre en deuxième division ou ne pas descendre en deuxième division
pour un but d'écart.
Un but de plus ou de moins en goal averageuse.
Je te l'accorde. Je me mets à la place des Clermontois, j'ai envie de rentrer au vestiaire. Je me mets à la place des Lillois,
Dans la balance, le jour que les Clermontois
ils auront la possibilité d'en mettre 6 à une équipe, tu vas voir s'ils le feront pas.
Tu es sans pitié.
Non, mais dans la balance, je pense aussi, est-ce que l'arbitre, ils n'ont pas jugé qu'ils étaient à 10 Clermont. Ouais. Mais bon, t'as raison, coach. Je crois que t'as raison sur le fond.
En fait, coach, il a mentalité anglo-saxonne. Tu sais, les Anglais
en plus, il a raison, coach, d'une certaine façon. Si à la fin de la saison, Lille rate une place européenne à un but, ils se diront peut-être qu'ils ont manqué de temps. Peut-être qu'on peut aussi penser que l'arbitre de la rencontre avait.
Qu'on soit bien d'accord. Si nous sommes en Coupe de France, c'est une chose. Ok, ouais. Tu as une équipe qui est en train de perdre 4-0, à la 90e minute, tu siffles et si tu veux, tu les empêches de souffrir. Mais en championnat, c'est pas pareil. Il y a quand même un truc qui s'appelle le goal average.
Il est frustré, Roland. Il commençait à prendre son pied dans ce match. Il voulait des buts.
Et puis imagine qu'il y a un joueur qui est marqué, qui a joué les deux équipes qui marquent. Ben, un but à la 94e minute, ça peut l'arranger.
Ah, elle est là l'explication. Montre-nous ton ticket. Tu avais mis Lille vainqueur avec les deux équipes qui marquent.
Non, je te jure que non.
Ça ne m'étonnerait pas, tiens.
Non, reste un connerie. Sinon, je te le dirai. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé.
Et là, ça le rend très énervé.
Et là, je vais te dire un truc. J'ai même inventé des gros mots, des grossièretés qui n'existent pas. Je les ai inventés.
Il est merveilleux, ce coach.
Heureusement qu'il coupe son micro de temps en temps, parce que moi, j'en entends, je te dis, ça me fait les oreilles qui sifflent. Merci, en tous les cas, à Timothée et à Jean.
Merci à vous, c'est un jour.
Tu n'as pas intérêt à rencontrer un Niçois.
On va voir un peu ce que font les Marseillais ce soir. Je t'attends au tournant, hein, mon Roland. Tu es optimiste pour ce soir?
Écoute, nous on n'a pas un Galtier argentin, je te dis.
Je ne sais pas pourquoi, mais ce sont Paoli, tu l'as un petit
bord de dernier saint. Écoute-moi, je suis chauvin pour Galtier, ok. Voilà, je regarde.
Il est marseillais.
Je regarde ce que fait Galtier hier. Et c'est parfait de A à Z dans la composition d'équipe, dans les changements, dans la façon de jouer. Mais que tu veux que je te dise, j'ai dit bravo.
Eh ouais, il est chez nous. Merci Roland, en tout cas, de nous avoir accompagné cet après-midi. Donc, victoire, large victoire de Lille qui s'impose 4-0 face à Clermont. Le dernier match, ce sera ce soir. Marseille-Monaco à 20h45.
Les deux équipes qui marquent. Marseille-Monaco.
Les deux équipes qui marquent ce soir.
Je m'imagine même pas une seconde que Marseille, en passant une semaine tranquille,
ne gagne pas.
Monaco, qui a des bosses sur la tête, dans l'atmosphère de son club, dans une semaine compliquée, dans une élimination en coupe, tu voudrais aussi qu'ils rajoutent des points perdus aux 19 qu'ils ont déjà perdus au stade de l'Odrome.
Le foot n'est pas une science exacte. Tu le sais bien.
Là, ce serait un exploit, évidemment, un exploit, en étant ironique.
Merci Roland. Thibaut est là pour la suite. Juste un petit mot quand même avec Morgan Mori pour le hand, les dernières minutes du match entre la France et la Croatie. Tout va bien pour les Français.
Oui, tout va bien. La qualification pour l'Euro est pratiquement dans la poche. 24 pour la France, 19 pour la Croatie. Encore 2 minutes et 30 secondes dans cette partie à Toulouse.
Merci Morgan, Thibaut, Jean-Grand, Marie Zévon GP. Duo de charme et de choc pour le RMC Sport Show qui débute dans un instant. Eh oui,
à Marise le charme, à moi le choc.
Ah, ça dépend des jours. On peut dire que de temps en temps, ça choque aussi avec Marise. Hein. Ouais.
Mais en revanche, pour le charme, là, je suis lucide, qu'est-ce que tu veux.
On est ensemble jusqu'à 20h avec Marise. Effectivement, et dans un instant, vélo, un Français maillot jaune de la course au soleil. On va en parler dans un instant. Paris-Nice a bien débuté. C'est la première grande course à étapes de la saison. On sera avec notre envoyé spécial sur place, Vincent Lavenu, manager historique, pour tout nous dire sur ce parcours, sur ce plateau. La MotoGP, début de saison très compliqué pour notre champion du monde, Fabio Quartararo. On va essayer de comprendre pourquoi. Et puis on sera également avec Tessa Worley. Gros week-end pour le ski féminin français. Elle sera l'invitée du RMC Sport Show. On est en direct, comme tous les dimanches, de 19h à 20h. À tout de suite.
RMC Sport Show.